BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
18h, il sera 18h dans 1 minute 30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Voici Good Evening Business en direct jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité ensemble. L'actualité ce soir, elle est dominée bien sûr par la présentation du programme économique de Jordan Bardella ce matin à Paris. Présentation qui nous a pas vraiment rassurés sur les capacités du RN à financer les dépenses qu'il promet, notamment en matière de pouvoir d'achat. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Et puis on en parlera tout au long de la soirée, notamment Edwige Chevrillon qui ressort. Recevra l'économiste Michael Zemmour dans 10 minutes sur BFM Business. Et puis, on va évoquer d'autres sujets en lien avec ces programmes économiques qui sont donc désormais tous sur la table avec nos experts dès 18h30. Faut-il craindre notamment pour son épargne? Vous savez que le Rassemblement National a confirmé ce matin le retour d'une sorte d'ISF quelque part. Est-ce qu'on doit s'inquiéter si on est épargnant pour son épargne? Est-ce qu'on doit se préparer à des relations tendues avec Bruxelles sur pas mal de sujets? Et puis, on posera la grande question, est-ce que la France, ça y est, devenu le grand malade de l'Union européenne? Beaucoup de questions, ça tombe bien, on a 2 heures pour tenter d'y répondre. Voilà le programme, très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc Jordan Bardella ce matin, à peu près 1h20 de conférence de presse pour dévoiler l'ensemble de son programme pour les législatives et notamment son programme économique. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Qu'est-ce qu'on retient fondamentalement de cette prestation du président du Rassemblement National ce matin?
Il a présenté un programme qui s'articulerait en 2 temps. D'abord l'urgence cet été sur la sécurité, l'immigration et sur le pouvoir d'achat avec 3 propositions. La baisse de la TVA sur l'énergie, la sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur par décret au 1er juillet. Ensuite, il y a un 2e temps à l'automne, avec des réformes qui présentent comme plus structurelles, notamment les retraites, avec un départ à 60 ans pour les moins de 20 ans qui ont cotisé 40 annuités, les carrières longues, et pour les autres, pour tous les autres, un retour progressif à 62 ans. Autre réforme, la poursuite de la baisse des impôts de production avec non seulement la disparition de la CVAE comme le promet la majorité, mais aussi la suppression de la C3S. Pour augmenter les salaires, le RN, ça on connaissait la proposition, veut exonérer de cotisations patronales pendant 5 ans jusqu'à 3 SMIC les entreprises qui augmentent les salaires jusqu'à 10%. Et enfin, pour financer l'économie, vous en parlez dans le sommaire, le RN veut créer un fonds souverain qui financerait l'innovation, les TPE-PME et les infrastructures. Et un dernier point enfin sur la méthode, le RN veut mettre en place, là aussi c'est dans le calendrier, dès cet été, 3 commissions avant de faire des choix définitifs. Une commission d'évaluation des comptes publics qui irait faire le fameux audit de nos finances publiques. Des états généraux de la simplification pour demander aux chefs d'entreprise ce qu'ils attendent comme mesures de simplification. Et enfin, une conférence sociale sur les salaires et les conditions de travail chargée notamment de plancher sur le retour progressif à la retraite à 62 ans.
Voilà donc pour les principales propositions économiques du Rassemblement National. Merci Thomas, on en reparlera tout à l'heure bien sûr avec vous sur BFM Business. Alors, il y a eu beaucoup de reculades ces derniers temps et encore aujourd'hui, Mathieu Pechberti, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Vous vous concentrez sur le secteur de l'énergie. Ce que vous nous dites, c'est reculade sur reculade finalement sur ce sujet.
Oui, alors c'est important parce que le secteur de l'énergie, les mesures liées à l'énergie sont parmi les plus importantes du programme économique de Jordan Bardella. Il les décrit même parmi ses premières mesures en tant que mesure d'urgence. D'abord sur la TVA, il a quand même fait un recul assez net sur le montant de la baisse de la TVA. On était jusqu'ici sur une baisse de TVA de 20% à 5,5%. Puis il est en train de dire désormais depuis ce matin qu'il faut s'aligner sur la moyenne des pays de la zone euro et on est à 11%. Et comme il n'y avait pas eu de chiffre très précis qui avait été donné jusqu'ici, aujourd'hui on est à 7 milliards d'euros d'économies sur ces mesures. Alors qu'avant, les estimations étaient autour de 11, 12, certains les chiffraient jusqu'à 17 milliards. Et puis, ça, c'est pour les mesures, on va dire, de pouvoir d'achat directement. Puis, sur la mesure plus structurante qui était liée au marché européen de l'énergie. Alors, on est effectivement aujourd'hui très loin de ce qui était encore dans le programme du Rassemblement National au moment des européennes, qui était de sortir du marché européen de l'énergie. Même de changer les règles du marché européen de l'énergie, hein, ce que disait encore ce matin Marine Le Pen en réagissant à un de nos sujets. Puisque si vous changez les règles du marché européen de l'énergie, de fait, vous en sortez. Aujourd'hui, Jordan Bardella précise qu'il demandera à Bruxelles une dérogation pour, on va dire, plafonner les prix français de l'électricité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une mesure qui est absolument impossible à mettre en place, que d'ailleurs le gouvernement, il y a 2 ans, avait quand même essayé de négocier à Bruxelles. Bruxelles l'avait dit, il en est hors de question. Et donc, aujourd'hui, Jordan Bardella fait cette précision sur une mesure dérogatoire dont les spécialistes pensent que, de toute façon, elle ne pourra pas être mise en place.
Voilà, pour ce marché de l'énergie, aussi beaucoup d'approximations de la part du Rassemblement National. On en parle évidemment jusqu'à 20h ce soir sur BFM Business. Merci messieurs, 18h03. Pendant ce temps, Bruxelles est en train de dégainer la grosse armada contre Apple, figurez-vous. Elle vient de confirmer que d'après l'Américain, ne respecte pas les règles du fameux DMA européen. Il y a donc entorse à la concurrence, mais il y a surtout le risque d'une très, très, très grosse amende pour Apple. Alexandra Paget.
40 milliards d'euros, soit 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est le montant maximal qui peut être infligé à Apple. Du jamais vu, la commission lui reproche de ne pas se conformer au DMA. Certes, l'entreprise a ouvert l'iOS à plus d'applications non estampillées par ses soins. Elle permet aussi aux développeurs de ne pas passer uniquement par l'App Store, mais le système est encore si fermé que passer outre les solutions maison se révèle être la croix, la bannière, que ce soit pour les développeurs ou les utilisateurs. Apple, qui réfute toute pratique anticoncurrentielle, peut désormais exercer ses droits à la défense en ayant accès au dossier et répondre aux conclusions préliminaires. Mais si celles-ci sont confirmées, Bruxelles pourrait rendre une décision définitive de non-conformité d'ici à la fin mars 2025. La firme s'est déjà vue infliger en mars dernier une amende de près de 2 milliards d'euros pour des motifs similaires. Le géant californien fait systématiquement appel, mais cette fois la réponse du berger à la bergère est d'une autre nature. Apple a invoqué des difficultés posées par le DMA pour retarder le développement de ses outils d'intelligence artificielle en Europe.
Voilà, Apple donc sous la menace d'une grosse amende de la part de l'Union européenne. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Et puis on va aller à New York pour terminer. Question, les banquiers juniors de Wall Street travaillent-ils trop? Là-bas, la norme, vous savez, c'est 100 heures par semaine. Sauf que le mois dernier, vous avez deux jeunes salariés de Bank of America qui sont décédés de manière un peu suspecte. Alors oui, on avait mis en place des garde-fous, mais apparemment, ils ne sont toujours pas respectés. Reportage sur place, Antoine Hollard pour BFM Business.
Il y a deux ans, Christine J décroche le job de ses rêves, analyste dans une grande banque à Wall Street. Mais rapidement, l'expérience tourne au cauchemar.
Il n'y avait aucune séparation entre le travail et la vie privée. Je travaillais souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et plusieurs fois par semaine, je passais même toute la nuit au bureau.
Un travail intensif, sous pression permanente. La jeune femme finit par craquer.
Un jour, je me suis évanouie au travail. J'ai été transportée aux urgences. J'étais la troisième de mon équipe à qui ça arrivait. C'était un environnement de travail très toxique.
À Wall Street, les banquiers juniors sont corvéables à merci et parfois les conséquences sont dramatiques. Le mois dernier, ce salarié de Bank of America meurt, foudroyé par une thrombose. Il avait enchaîné les semaines de 120 heures de travail. Sur des groupes de discussion, ses anciens collègues accusent la direction.
Son manager est responsable, il écrase les juniors de travail. Ses supérieurs savaient qu'ils travaillaient trop et ils n'ont rien fait.
Ce décès relance le débat sur les conditions de travail à Wall Street. Certaines banques ont bien pris des mesures. Interdiction de travailler le samedi, semaine plafonnée à 80 heures. Mais ces règles sont rarement appliquées. Karen Ho, professeure à l'Université du Minnesota.
Il y a une culture du surmenage à Wall Street avec l'idée que travailler énormément est un signe d'intelligence, un signe que vous êtes connecté en temps réel avec les marchés, car les marchés ne prennent jamais de pause.
Et la situation ne va pas s'améliorer car ces dernières années, les grandes banques américaines ont réduit leurs effectifs pour faire des économies. De quoi alourdir encore un peu plus la charge de travail de ceux qui restent.
Voilà, surmenage encore, surmenage toujours. Hein, c'est un vieux sujet des jeunes banquiers du côté de Wall Street. Antoine Hollard avec nous sur BFM Business, 18h07. Bah justement, on va sur les marchés. On y va tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. On a terminé en hausse pour débuter cette semaine à Paris, Étienne.
En effet, un CAC 40 qui continue de jouer au yo-yo, mais qui là, ça y est, arrive à se retrouver au-delà des 7700 points à la clôture. 7706 points, c'est une hausse de 1% pour débuter la semaine avec de faibles volumes. Mais figurez-vous que le secteur bancaire gagne plus de 2%, même 3% pour BNP Paribas. Seule exception aujourd'hui, c'est Eurofins Scientifique qui s'effondre de plus de 16% avec le fonds activiste Muddy Waters qui voit dans les comptes d'Eurofins certains trucages. En tout cas, il trouve que les comptes ne sont pas clairs et donc suite à cela, vous avez la valeur qui dégringole ce soir à la clôture sous les 45 euros. À noter, et ça c'est une bonne nouvelle sur l'obligataire, que vous avez un spread, donc un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui se réduit sous les 70 points de base, alors que la semaine dernière il était au-delà des 80 points de base. En jeu notamment une interview donnée par Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National qui évoque que la France, si le Rassemblement National est au pouvoir, tiendra un objectif de déficit de 3% à l'horizon 2027, et puis qui rassure également les banquiers en disant vous inquiétez pas, le Rassemblement National ne va pas revenir en arrière sur la l'attractivité de la place parisienne avec le Brexit. Donc tout cela permet aux 10 ans français de se détendre sous les 3,12% à l'instant, et l'euro se rapproche des 1,0750, 1,0740 à l'instant. Et donc la Bourse de Paris qui commence la semaine dans le vert avec un plus 1% ce soir à la clôture, au-delà des 7 700 points, 7 706 points. Mine de rien, le CAC 40 a repris 250 points depuis ses plus bas d'il y a 10 jours.
Merci beaucoup Étienne. On regarde ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, mi-séance sur le marché américain, le Dow Jones qui grappille 0,86%, 39 489 points. L'indice Nasdaq, de son côté, perd 0,27%, 17 642 à la mi-séance.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble pendant presque 20 minutes. Le grand retour en arrière. Nous avons deux projets d'inspiration marxiste. C'est évidemment pas moi qui le dis. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Bonsoir, Michaël Zemmour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Ça vous fait sourire. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po. Vous êtes proche, on peut le dire, du nouveau Front populaire. En tous les cas, vous servez un tout petit peu de référence à leur programme économique. C'est pour ça que vous êtes là. Et puis avec nous aussi, Emmanuel Le Chip. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
Emmanuel, si vous êtes là, c'est que vous avez commencé à faire le chiffrage, comme à chaque élection importante, présidentielle, législative, le chiffrage des différents programmes. Et notamment, vous avez fait un peu les grands équilibres macroéconomiques du programme du nouveau Front populaire. On verra si Michaël Zemmour est d'accord avec vous. D'abord, nous avons deux programmes marxistes, d'inspiration marxiste. C'est vrai que finalement, en fait, il y a pas mal de ressemblances entre les deux programmes économiques.
Économique,
sur les retraites,
non,
sur l'augmentation du SMIC, sur...
Pardon.
Après, il y a des modalités différentes.
Ah non, non, vraiment, c'est très différent et au contraire, il y a une clarification. Le programme du nouveau Front populaire, on pourra en parler, c'est un programme assez classique de gauche, plutôt ambitieux, à la fois de relance, de pouvoir d'achat et qui revient sur des mesures, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Du côté du Rassemblement National, il y a une clarification vers la droite, en fait. C'est-à-dire que le Rassemblement National devait choisir entre continuer les baisses d'impôts sur les entreprises, les baisses de cotisations et revenir sur les réformes antisociales. Il a tranché. Il a abandonné l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, c'est assez clair. Si le Front National prend le pouvoir, on garde la réforme des retraites jusqu'à 64 ans.
Ils vont l'abroger.
Non.
C'est ce qu'a dit tout à l'heure Bernard Bardella.
Il donne un chiffre, on peut partir de leur chiffre, il donne un chiffre en disant on a budgété 1,6 milliard sur les retraites. C'est un dispositif qui permettrait à 45 000 personnes, c'est-à-dire moins de 10% des départs en retraite chaque année, de partir plutôt vers 60 ans. Abroger la réforme des retraites, c'est-à-dire déplacer l'âge de la retraite de 64 ans à 62 ans, c'est-à-dire revenir à la situation d'avant 2023, c'est dans le programme du nouveau Front populaire. Ça coûte au début pas cher, parce qu'elle vient juste de s'appliquer, et en 2032, ça coûte 20 milliards par an. Mais donc, pour revenir sur votre question, il y a plutôt une clarification. Avant les élections, on avait le discours, vous savez, le Rassemblement National a des mesures sociales. En réalité, quand vous regardez le programme du Rassemblement National, il est clairement marqué à droite. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire que c'est pour rassurer les milieux d'affaires. Et puis aujourd'hui, c'est presque une exclusivité, il y a deux chercheurs, Raoul Sampognaro et Elvire Guillot, qui ont rentré les chiffres du Front National, du Rassemblement National, pour regarder les effets sur les inégalités. Et sans surprise, ça les creuse. Il y a plutôt des gagnants dans le décile du haut. Donc le top 10, ils vont plutôt gagner de l'argent.
Et qui va de d'où à où ?
Le top 10 ?
Oui.
Le top 10,
non, mais le top 10, on peut avoir Bernard Arnault. Enfin, je veux dire,
Non,
mais bien sûr.
Non, c'est les 10% de la population, moyenne des 10% de la population, gagnent plutôt de l'argent par des baisses d'impôts, plutôt impôts sur le revenu, baisses d'impôts sur l'héritage, etc. Et en bas de la distribution, du côté des classes plus populaires, en dessous de la médiane, il y a plutôt une baisse. Donc c'est plutôt un programme qui va du côté du creusement des inégalités.
Oui, enfin,
et donc,
Michael
de ce point de vue-là, il y a Bruno Le Maire se grandit pas du tout avec son, d'une part, avec le qualificatif marxiste, ça n'a pas de sens. Et d'autre part, en rapprochant le programme du Rassemblement National du programme de la gauche, parce qu'en réalité, ils sont très antagonistes.
Ce qui est vrai,
c'est qu'au milieu, il n'y a pas de programme du gouvernement.
Ils appuient sur le bouton du pouvoir d'achat, avec des remèdes différents, et ils appuient sur la réforme des retraites, parce que même...
Mais non, expliqué, ils y ont renoncé au Rassemblement National.
Non, ils n'ont pas complètement renoncé, puisqu'en fait, et c'était la question, et j'ai eu effectivement une bataille avec Jordan Bardella lors de la présentation de leur grand oral économique, c'est, en fait, c'est 60 ans, pour les carrières longues, c'est à 60 ans, et puis ensuite, ça reste à 64 ans, j'ai bien compris, et ça sera là, à terme, après l'audit, ça sera à 62 ans. Ça sera redescendu à 62 ans. Et donc la réforme sera abrogée.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Vous êtes la même chose.
Non. Deux raisons. La première, c'est qu'ils préfèrent continuer les baisses de cotisations sociales que de faire la réforme des retraites. Emmanuel Le Chip le sait très bien, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas baisser les cotisations sociales et revenir à la retraite à 62 ans. Mmh. C'est pour ça que le programme du Nouveau Front Populaire, c'est d'abroger la réforme des retraites, mais de mettre de nouvelles recettes du côté des retraites.
Oui, parce qu'il faut
la deuxième chose, c'est que si vous voulez revenir sur la réforme des retraites, il faut le faire tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'elle a commencé à s'appliquer en 2024. Elle commence tout juste à s'appliquer et il ne faut pas que les générations qui arrivent soient touchées par cette réforme des retraites, sinon vous créez de l'irréversible. Et donc si on veut l'abroger, on ne peut pas attendre un audit, etc. Il faut l'interrompre tout de suite et ensuite avancer sur le reste du programme des retraites. Et donc sur les retraites, il y a vraiment une clarification. Alors c'est vrai que tous les jours, ils changent de discours, mais il suffit de regarder les chiffres.
Ils font de la politique, finalement. Ils veulent séduire le maximum de...
Oui, mais il y a une précision qui est assez claire maintenant. Ils s'engagent sur une mesure carrière longue pour environ 45 à 50 000 personnes, alors que du côté du Nouveau Front Populaire, ils s'engagent pour tous les salariés à remettre l'âge minimal de la retraite autorisé à 62 ans. C'est une vraie différence.
Emmanuel Le Chypre.
C'est vrai qu'il y a eu une clarification aujourd'hui assez nette. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que jusqu'à la semaine dernière, le point commun qu'on pouvait trouver entre les deux programmes RN et Nouveau Front Populaire, c'était quand même que, alors avec des canaux différents, c'était des programmes qui ciblaient quand même le soutien à la demande.
Oui.
Par rapport au soutien...
La politique de la demande par rapport à la politique d'offre.
Après, on pourra débattre, évidemment, sans fin, sur est-ce que la France a plutôt un problème d'offre ou un problème de demande. Mais c'est vrai que c'était semblable là-dessus. Moi, ce qui m'a étonné ce matin dans la présentation de Jordan Bardella, c'est qu'effectivement, on a plus, finalement, un programme qui se rapproche de celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai trouvé que le programme de Jordan Bardella, le programme économique, c'est finalement le programme d'Emmanuel Macron avec un peu moins d'écologie et un peu moins d'Europe.
Je suis d'accord, vous avez oublié une chose, mais effectivement, il est très marqué à droite, vous avez oublié une chose, les mesures xénophobes en plus.
Non, mais ça...
Non.
Bien sûr.
Ça fait partie de l'économie, c'est au cœur du programme.
Oui.
Parce qu'au cœur du programme économique du Rassemblement National, il y a supprimer les droits sociaux d'une partie de la population, y compris des personnes qui sont française mais qui aurait acquis la nationalité, ce qui a un effet direct sur le pouvoir d'achat. Et en plus, ils font croire, sans chiffrage, que c'est ça qui va financer leur politique économique. Et donc, effectivement, les orientations, c'est plutôt le programme d'Emmanuel Macron, mais en plus, ils y rajoutent une politique xénophobe qui se traduit dans les mesures économiques et sociales.
En matière de chiffrage, c'est pas le pire. Non. Le pire, c'est de tabler sur ces fameuses hypothétiques recettes de la lutte contre la fraude fiscale.
Oui.
Juste quand on sait que c'est la France qui a le taux de recouvrement quasiment au monde.
C'est déjà 11 milliards.
Et vous avez quand même des missions qui viennent du monde entier à Bercy pour essayer de regarder comment on fait déjà pour lutter contre la fraude fiscale.
Il y a une phrase incroyable dans le programme que j'ai lu juste avant l'émission qui dit « On va donner accès aux administrations aux fichiers qui permettent de lutter contre la fraude sociale. » Mais ils croient qu'on est dans quel pays ? Évidemment que les administrations sur les prestations sociales, elles ont accès quasiment à toute votre vie, soit l'administration fiscale ou les administrations sociales.
On va passer peut-être maintenant au chiffrage. Après, on reviendra sur la question du SMIC, l'augmentation du SMIC, les conséquences, donc la politique de la demande, l'impact que ça a à moyen terme et peut-être un effet négatif à plus long terme. Emmanuel, vous êtes en train de chiffrer ces programmes économiques, différents programmes. D'abord, expliquez-nous c'est quoi votre méthode. Et deux, vous parlez face à un économiste, donc lui aussi, il a envie de savoir. Et deux, les chiffres, est-ce que ça conduit, quel impact ça a, en fait, impact économique, parce que ça n'a, sur le chômage, c'est un impact négatif. Et puis sur la croissance, où là, c'est un impact aussi négatif.
Alors, brièvement, pour rappeler, en fait, à chaque élection présidentielle, on reprend les programmes. Mmh. Et effectivement, on fait tourner un modèle économétrique dit varianciel. C'est-à-dire, c'est un modèle, en fait, dans lequel on rentre des chocs de politique économique et qui nous répond. Il faut rappeler qu'un modèle, en fait, c'est une maquette. Hein, c'est un modèle réduit du fonctionnement de l'économie française. Là, c'est un modèle universitaire qui s'appelle Maxime 2. C'est un modèle qu'on utilise parce qu'il est quasiment disponible pour tout le monde, que tout le monde peut l'utiliser. Donc, c'est pas un modèle qui vient d'un institut marqué politiquement. Et donc, effectivement, alors, Michael l'a dit, le programme du Nouveau Front Populaire est un programme classique d'inspiration de gauche, de relance.
Néo-keynésien.
Et donc, en gros, quand on rentre dans le modèle, bah, toutes les variables qui ont été données par le programme du Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire à la fois côté salaire, les 10% de hausse du SMIC, les 10% de points d'indice des fonctionnaires, et puis tout ce qui est fiscal, c'est-à-dire le nouvel ISF élargi.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que le plus gros poste, c'est l'augmentation de 10% des salaires des fonctionnaires.
Et donc on trouve, alors sans surprise, un impact qui est l'impact classique qu'on a connu, qui est le même qu'en 81, par exemple, etc. C'est qu'en gros, si vous regardez sur les deux premières années, on a un impact positif sur la croissance, on a un impact même légèrement positif sur le taux de chômage. En revanche, on a un déficit commercial qui se creuse beaucoup. Et quand on regarde sur l'horizon 2027, parce qu'on s'est arrêté à l'horizon 2027, grosso modo, là, on a un impact sur notre compétitivité important qui fait que bah on perd finalement de la croissance. Et en gros, si on n'avait rien fait, si on maintenait la trajectoire de l'économie française entre aujourd'hui et 2027 sans aucune mesure majeure de politique économique, ce programme... En gros, sur 4 ans, il coûte à peu près 1,5 point de PIB, 2 points en plus.
Mais si ça coûte 1,5 point là, vous-même, m'avez dit 2%. Je veux dire, comme on ne fait pas 2% de croissance, donc ça veut dire qu'on conduit à. On va vers une récession.
Le niveau de PIB en 2027, okay. Il serait à peu près 1,5 à 2% plus bas. Que sans réforme, le taux de chômage serait 2% plus haut. Par contre, en déficit commercial, on le paierait assez cher. Bon. Puisque je rappelle quand même qu'on a 5 à 6 points de déficit.
Alors évidemment, Michael Zemmour n'est pas du tout d'accord avec.
Merci pour l'exercice, Emmanuel. J'ai envie de dire, ne faites pas ça chez vous. C'est-à-dire que de prendre l'ensemble d'un programme et de le rentrer comme ça, comme s'il était appliqué comme une disquette sur 5 ans, ça n'a pas grand sens. Et effectivement, il y a une difficulté, je pense, pour le Nouveau Front Populaire, c'est qu'ils ont voulu être tellement précis, c'est un peu un complexe de bons élèves. Ouais. Ils ont donné plein de chiffres.
Ça complexe d'universitaires parce qu'il y a quand même des super économistes de ce côté-là.
Il y a des économistes.
Il y a Thomas Piketty, il y a Esther Duflo. Enfin, vous voyez.
C'est les politiques qui ont fait le programme, c'est pas les économistes, mais peu importe. Plusieurs choses. D'abord, du côté du Nouveau Front Populaire, ce qui est intéressant dans le programme, c'est pas les chiffres, on rentre pas tous les chiffres sur 5 ans comme ça, c'est la direction qui est prise. Et la direction, je suis d'accord avec vous, Emmanuel, c'est une direction un peu à la Biden de politique de relance. Et c'est là où je suis pas d'accord avec votre exercice sur deux points. D'abord, un programme, ça lance une direction, ça lance une stratégie, et en fonction des retours qu'on a, on met en œuvre la suite du programme. Et ça, je crois qu'ils ont tous été très clairs. Ils ont à la fois une ambition de relance, mais en même temps, ils ont le regard sur le déficit public. Pourquoi ? Parce que le gouvernement actuel laisse l'économie avec un déficit abyssal. 5,5 points, on l'a jamais eu. Et donc, on n'est pas dans une situation où on peut dire, ce qu'a dit la gauche parfois, le déficit, on s'en fiche. Là, ils sont dans une situation où ils disent, on fait de la relance, on en attend des effets positifs, mais en même temps, les recettes publiques qu'on va aller récupérer, notamment en taxant les milliardaires, on va aussi les utiliser pour prendre des mesures, tout en surveillant le déficit. Ça, c'est pour le côté du Nouveau Front Populaire. Et ensuite, là où je suis pas d'accord non plus avec l'exercice, c'est que du côté du gouvernement, si on voulait faire l'exercice au sérieux, ils sont en train de freiner l'économie. Le programme économique du gouvernement, Bruno Le Maire n'arrête pas de le dire, c'est la baisse des dépenses publiques. Ils ont annoncé 10 milliards cette année, 20 l'année prochaine. Alors, d'une part, si on fait vraiment ça, bah, ça freine, ça augmente le chômage, les carnets de commandes des entreprises diminuent. Non, je ne pense pas que ça soit nécessaire, parce que quand on est en bas de cycle économique, c'est plutôt le moment de faire de la relance que de la rigueur. Oui. Et la deuxième chose, c'est que le programme du gouvernement, vous ne pouvez même pas vraiment le rentrer dans votre machine, parce qu'ils ont dit on fait 10 milliards d'économies maintenant, 20 milliards l'année prochaine, en baissant les dépenses publiques, et personne ne sait lesquelles. Et là, personne ne demande de chiffres. Alors que c'est le gouvernement en place, il dit on va baisser les postes de la dépense publique, on ne sait pas lesquels.
Mais d'ailleurs, moi je vous dis franchement, là c'est vraiment... On va affiner tout ça, etc. C'est pas ce que je veux dire. Parce qu'il y a des choses encore qu'on doit recalculer, effectivement. Et puis, on doit s'attaquer, parce qu'on a les chiffres que depuis vendredi, globalement. Et donc, on doit s'attaquer aussi aux autres programmes. Mais comme on se voyait ce soir, j'ai mis l'accent sur celui-là. Moi, je vous dis franchement, quand on voit les masses qui sont dans les programmes, en termes de choc fiscal, en termes d'ampleur des dépenses, je vais vous dire, moi, je pensais que, finalement, il y aurait plus d'impact que ça et plus d'écart que ça. Ça veut dire que quelque part, ces chiffres et finalement leur côté assez peu spectaculaire montrent que ce programme n'est pas complètement, je veux dire, et pas complètement vous, absurde, entre guillemets, ouais, par rapport aux contraintes macroéconomiques.
Moi, je veux dire, c'est ça qui m'intéresse dans ce programme.
Pardon. Non, c'est juste pour revenir sur un instant ce que vous disiez. Puis quelques mots, vous disiez, mais le gouvernement est en train de freiner parce qu'ils ont moins 10 milliards, plus moins 20 milliards en 2025. Mais vous, à la limite, votre choc fiscal, il est encore plus important, donc il va freiner encore plus.
Ah non, non.
Ah si, parce que ça va freiner toutes les entreprises.
Mais précisément, quand vous taxez les milliardaires, vous diminuez pas la consommation.
Non, mais attendez, Bernard Arnault, il va pas sauver la France, ni dans un sens, ni dans un autre, vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
il faut peut-être arrêter de se focaliser sur Bernard Arnault et les milliardaires, non enfin,
Non, mais pas du tout. Je pense qu'il y a deux sources de recettes dans le programme du Nouveau Front Populaire. Il y a d'une part le fait de taxer les trois gros patrimoines et d'utiliser cet argent dans soit la protection sociale, soit des investissements et de la dépense publique. Mmh. Et ça, l'effet de frein qu'on a quand on taxe des très gros patrimoines, il est faible, parce que ces patrimoines ne sont pas consommés à court terme, et s'ils sont investis, ils ne sont pas taxés. Alors que quand on fait de la dépense publique, on a un effet multiplicateur puissant, particulièrement comme, quand c'est le cas en ce moment, on est en récession. Enfin, pas en récession, on est en bas de cycle en réalité. C'est-à-dire qu'on est en dessous du PIB potentiel. Et le gouvernement a fait le choix d'annoncer qu'il allait fermer le déficit avec une réduction à marche forcée des dépenses publiques. Et ce que lui ont dit tous les macroéconomistes, c'est si vous faites ça maintenant, vous allez avoir une stagnation de l'économie, vous allez ralentir l'économie. Et donc là, et moi c'est ça qui m'intéresse, le détail des chiffres, en réalité, personne ne sait quelle sera la situation économique dans 6 mois. D'accord. Par contre, il y a deux stratégies économiques. Il y a une stratégie qui privilégie la réduction du déficit, et ça se fait par des baisses des protections collectives. On fait la réforme du chômage pour gratter 5 milliards, on fait la réforme des retraites, on va diminuer les services publics. Et il y a une stratégie plutôt de relance, plutôt à la Biden, où on dit on va chercher l'argent là où il est, on relance l'économie et on restaure les protections collectives.
Okay,
et ce débat-là, il est assez clair.
Michaël, la critique qu'on peut vous formuler, c'est de ne pas tenir assez compte
de l'évolution démographique.
Et puis de l'environnement international, de la concurrence extérieure. C'est-à-dire qu'en gros, il faut juste rappeler que les 25 produits les plus consommés par les Français ne sont plus fabriqués en France, et que donc, vous aurez un effet de relance limité sur la production made in France, et que le raisonnement qui était intéressant, qui était
de dire,
oui, mais comme maintenant on consomme plus de services, il y aura plus d'argent qui sera dépensé en France, ça bute sur les difficultés de recrutement dans les services. Et puis il y a surtout le phénomène que vous niez tous, que vous ne voulez pas voir, qui est l'expatriation des créateurs d'entreprises et des grandes fortunes. Je rappelle quand même qu'au moment de la taxe à 75% de François Hollande, qui n'avait même pas finalement été appliquée, ouais, mais les flux sortants ont triplé par rapport à la période précédente. Et c'est qu'en 2018-2019 qu'ils ont commencé à revenir. Donc ça, c'est une évaporation de base fiscale, je pense, que vous sous-estimez.
Non, mais enfin, quand on a... Je suis pas du tout un fan de l'ISF, mais quand on a supprimé l'ISF, ça a rien fait bouger. C'est-à-dire que le discours...
C'est 5 milliards, hein, l'ISF est en plus compensé par 2 milliards d'IFI. Hein, donc,
oui, donc
il y a que 3 milliards
de baisse d'impôts sur les riches. Ouais. Donc, on a supprimé 3 milliards d'impôts sur les riches. Le discours de tous les ministres qui sont passés à la télé, c'était de dire, ça va stimuler l'investissement dans les entreprises. L'investissement n'a pas frémi. On a supprimé l'ISF. Le seul effet économique que ça a eu, c'est qu'on a eu des riches plus riches et on a attiré aucun riche de l'étranger.
Taux de création d'entreprise.
Il y en a qui sont revenus quand même.
Alors, la création d'entreprise, elle a été boostée par les auto-entrepreneurs. Je vous assure que c'est pas la suppression de l'ISF qui a boosté la création d'auto-entreprises.
Mais pas que les auto-entrepreneurs.
Mais par ailleurs, dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a aussi quelque chose pour taxer les personnes qui ont une activité en France et qui localisent artificiellement leurs profits à l'étranger. Ça, c'est une dynamique mondiale.
Comme les États-Unis.
Comme les États-Unis, pilotée par l'OCDE. Et ça aussi, je pense que ça va dans le bon sens. Encore une fois, je pense que le débat serait plus clair si on parlait des directions plutôt que des chiffres.
Et vous n'avez pas parlé des mesures quand même pour les petites entreprises.
Et non. Eh ben, vous en parlerez la prochaine fois.
Pourtant, il y en a. Sur BFM
Business.
Il y en a. Oui, vous serez réinvité, promis. Merci beaucoup, Michael Zemmour. Je suis désolée. L'heure était maintenant à Guillaume Paul pour toutes les cours. Restez avec nous. Merci, Emmanuel. On se retrouve tout à l'heure.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35 sur BFM Business. On est de retour, les experts. On est de retour jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Et nos experts qui ont commencé déjà, ça y est, à refaire les programmes. Les uns, les autres, évidemment. Bah, on va parler de tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business. Emmanuel Lechypre est resté pour l'occasion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Mathieu Pechberti est là.
Bonsoir.
Thomas Asportas est là. Bonsoir Thomas. Et Edwige Chevrillon qui reste avec nous, bien sûr. Rebonsoir Edwige. Alors Jordan Bardella, évidemment, 1h20 à peu près de conférence de presse ce matin pour présenter son programme au sens large.
et notamment, bien sûr, le programme économique.
Évidemment, bonsoir Thomas Asportas. Alors, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais il reste quand même toujours beaucoup de questions.
Ben voilà, c'est bien résumé. Non, mais merci.
Donc...
Déjà, sur le tempo, on va avoir deux temps. Enfin, c'est ce qu'il annonce. L'été, des mesures d'urgence. Sécurité, immigration, pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, ça tourne beaucoup autour de l'énergie, avec, promet-il, une baisse de la TVA sur les produits énergétiques, donc fuel, carburant, gaz, électricité, et aussi, là aussi, promet-il, un bras de fer avec les instances européennes pour déroger la règle des fixations de prix et découpler les prix du gaz de ceux de l'électricité. Et enfin, aussi, revenir tout de suite sur la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur au 1er juillet, par décret. Donc ça, c'est pour cet été. Et puis, à la rentrée, à partir de l'automne, au moment du budget, des réformes plus structurelles, notamment sur les retraites. On se souvient du flou au moment du débat jeudi dernier devant les instances patronales. Là, dit-il, pour les carrières longues, départ à 60 ans, pour les moins de 20 ans, 40 années d'annuité. Puis pour les autres, retour progressif à 62 ans. Il annonce aussi aller un cran plus loin sur les impôts de production avec la suppression de la CVAE, comme le veut la majorité, mais aussi la C3S. Et enfin, mais ça, il avait déjà expliqué, qu'il voulait exonérer 10%, ouais. Enfin, exonérer les cotisations patronales pour les entreprises qui augmentent les salaires jusqu'à 10%.
Non, mais alors, c'est intéressant, parce que c'est quand même un virage à 360, c'est-à-dire que vraie politique de l'offre. Enfin, on ne les attendait pas là. Ils ont été plus loin. Vous étiez en train de le dire. Ils vont quand même plus loin sur certains sujets que la majorité actuelle.
Ah bah, ils vont même beaucoup plus loin. Si vous voulez, je vous ai fait la liste de toutes les baisses d'impôts qui sont promises. Si on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, tout simplement, je vous fais une minute. Sur les entreprises, on a les impôts de production, on a aussi la suppression de la fiscalité sur les transmissions de TPE, PME, ETI, si les patrons gardent leur entreprise 10 ans. On a l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans pour les entreprises créées par des moins de 30 ans. Ça, c'est que pour les entreprises. Enfin, déjà, c'est pas mal tout ça. Pour les travailleurs, je vous disais les exonérations de cotisations. On a aussi suppression de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, tout le monde.
Ah oui, non,
du côté des familles, allègement sur les donations.
Mais ça, c'est retiré, ça, la suppression de l'impôt sur
le revenu. Non, c'est revenu. Ensuite,
il y a quelques jours,
sur le moyen terme, c'est revenu.
Ah, sur le moyen terme.
Oui.
C'est
sur le site officiel de
Rassemblement. Et alors, attendez, juste on termine pour les familles.
Sur les familles, allègement sur les donations et les successions, part fiscale complète dès le deuxième enfant, retour de la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves. Donc, enfin, vous voyez.
Et pas de chiffrage.
J'ai plus la minute, mais. Et à la fin. Non, et alors, face à tout ça, donc là, on a une énorme colonne baisse d'impôts. Et en face, on a une petite colonne économique qui n'est pas chiffrée.
Mais
le RN nous assure qu'il y a l'argent à la fois dans les dépenses sociales liées à l'immigration, dans la suppression des fiscales, mais on ne sait pas encore lesquelles, dans le renforcement de la taxe sur les énergéticiens, ça étape sur 3 milliards d'euros, comme gouvernement, c'est ce qu'il va le faire cette année.
Mais il y aura zéro.
Et il y aura zéro.
Et puis une négociation avec l'Europe.
Et enfin, la baisse de la contribution française au budget européen.
Voilà, 2 milliards. 2 milliards.
Mais il n'y a toujours pas de chiffres parce qu'on nous parle de cet audit qui, enfin, moi je me dirais ça comme ça, est un faux-nez destiné effectivement à préparer les esprits à d'autres
amendements. Ce qui est très, très frappant, je ne parle pas de la taxe sur les produits pétroliers et sur l'électricité, on en parlera avec Mathieu Pechberti. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que tout ça est extrêmement flou et qu'il y a une fluctuation de leurs mesures, de leur programme économique au fur et à mesure que ça avance et que l'échéance se rapproche. C'est-à-dire que là, on sent vraiment qu'ils sont dans une tentative de séduction de tous les gens qui n'en peuvent plus de Macron, d'Emmanuel Macron, et qui veulent, qui cherchent, qui sont plutôt droite, et donc qui ont envie d'aller voter, non pas Macron, mais Rassemblement National. Et donc, je pense que c'est une tentative de séduction, et notamment, il est vrai, auprès de la sphère économique.
Et des petits patrons.
C'est assez clair, on voit qu'il y a 41% des petits patrons, le dernier sondage en date, qui votent pour, qui sont prêts à voter pour l'Assemblée nationale. Les classes moyennes, qui s'estiment complètement les écrabouillés du système, elles sont à 42% prêtes à voter Rassemblement National.
Mais alors, donc, il y a un vrai message pour les entreprises, petites, moyennes,
et grandes. Il y a une vraie tentative
de
solution. Je suis d'accord avec Audrey. Il y a une clarification. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait tendance presque parfois à renvoyer les programmes Nouveau Front Populaire, RN, dos à dos, en disant c'est des programmes axés uniquement sur le soutien de la demande, alors que la France a un problème d'offre, etc. Dans la conférence de ce matin, il y a effectivement une clarification sur une politique de l'offre, mais qui effectivement, c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on voit finalement chacun ajuster.
Je sais pas si on va jusque-là, quand même.
Bah, si, quand vous en avez, il y en a quand même beaucoup pour les entreprises qui vont plus loin que ce que propose l'actuel gouvernement. Et là, où ce que dit Thomas est très intéressant, c'est qu'on voit bien que finalement le problème c'est pas forcément Emmanuel Macron, c'est pas forcément le programme d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Oui. Et donc moi je suis désolé, mais dans les propositions qu'on a eues ce matin, il y a du Macron sans Macron. C'est-à-dire que vous avez les avantages de Macron sans les inconvénients de la personnalité de Macron.
Et sans les économies en face, accessoirement.
Oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire...
Il n'y a aucun patron qui achète une baisse d'impôts pas financée.
Non mais attendez, la politique, c'est facile. Thomas, les 10 milliards cette année, ils vont les chercher où? Les 20 milliards l'année prochaine?
Comme personne n'achète aussi les finances publiques.
Dans la crédibilité d'aller chercher des milliards pour équilibrer les FDA, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit vraiment en mesure de racheter les autres.
Il n'y a pas de hausse d'impôts.
Écoutons une voix patronale, c'est de Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, qui ce matin disait, enfin il mettait un petit peu tout le monde dans le même panier, les extrêmes de gauche et de droite. Il ne faut pas céder aux sirènes de ces programmes économiques. Écoutez Pierre Gattaz ce matin.
Si 1% de ce programme est mis en œuvre le 7 juillet au soir, ce serait dramatique pour la France. Moi, j'ai connu 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand. J'avais 20 ans. Il y a eu 2 ans, je dirais, de bêtises économiques épouvantables dont on paye encore les fruits, les problèmes aujourd'hui. J'ai connu la mise en place forcée des 35 heures, si vous voulez, dans les années 2000. Ça a été aussi dévastateur et on le paye encore aujourd'hui. Et j'ai connu l'arrivée de François Hollande, en effet, avec des propositions tout à fait bizarres sur une flat tax à 80%, sur on taxe les riches à 75%, mais qui est un effet dévastateur parce que vous savez, l'économie a besoin de confiance et d'attractivité.
Et de stabilité.
Lorsque les patrons ne sentent rien, ne sentent pas bien l'affaire, d'abord ils n'embauchent plus, ils n'investissent plus. Donc le chômage peut repartir à la hausse d'une façon extrêmement rapide.
C'est ça le premier risque, c'est l'investissement,
s'arrête, l'emploi s'arrête.
Et puis compétitivité, donc attractivité.
Bien sûr, et ensuite l'attractivité, je dirais, on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité, des réformes fiscales, sociales. Si tout ça s'arrête et si vous êtes dans une mesure d'extrême gauche et des programmes économiques d'extrême gauche, je peux vous raconter que l'image de la France va se dégrader à une vitesse extrême. Et donc tous les beaux projets en cours, vous savez, il y a plein de méga-usines à Dunkerque, etc., vous pouvez oublier.
Voilà. Oui, alors l'image de la France qui se dégraderait à une vitesse grand V. Ceci dit, même si les investisseurs n'ont pas forcément tous les mécanismes macroéconomiques en tête, ils ont bien compris que la France était en train de se faire dégrader, qu'en effet on allait chercher 10 milliards cette année et 20 milliards l'année prochaine, sans savoir où est-ce qu'on allait les piocher. Donc est-ce que ça va changer réellement quelque chose?
Oui, je pense que
Thomas Asportas.
Oui, entre une politique économique, un cap qui est donné et boucler un budget, il y a quand même, effectivement, je pense, les patrons ne mettent pas ça sur le même niveau. Les deux sont importants pour eux, parce que l'état des finances publiques conditionne le financement d'une politique économique. Mais là, on parle de cap d'une politique économique, c'est quand même le cran au-dessus. Et effectivement, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait avec Emmanuel, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne peut pas faire gré à la majorité actuelle d'avoir été réprochable sur le financement de quoi que ce soit.
Mais maintenant, pour un listing pareil
de baisse d'impôts, c'est ce qui s'appelle raser gratis. C'est trop facile. À ce moment-là, demain, on peut encore nous annoncer plein de choses qui peuvent séduire un électorat.
Mais c'est ce que fait la politique du gouvernement actuel. C'est qu'ils ont dit pas de hausse d'impôts, ils ont baissé les impôts. Alors c'est vrai que le taux de prélèvement obligatoire est très élevé, mais ils ont baissé les impôts et c'est pas financé de l'autre côté.
C'est pas financé.
La preuve du déficit, vous voyez bien.
Puisque les impôts rapportent plus qu'avant. Ils ont dit on baisse les impôts et maintenant ils disent on arrête les impôts.
Vous voyez bien que la différence quand même notable, c'est que vous avez des promesses de réformes et de mesures qui ne sont absolument pas financées. Ce qui est dit sur les retraites, ce qui est dit sur la TVA.
Ce qui est quand même assez grave et qui, à mon avis, aura des séquelles durables, notamment vis-à-vis des investisseurs étrangers, c'est que vous aviez quand même cette impression auprès des gens, alors soit investisseurs financiers, les grands fonds de pension, les grands fonds d'investissement, soit des entreprises qui venaient investir en France, il y avait quand même cette impression qu'avec Emmanuel Macron, la France avait changé et que la France était devenue un pays plus raisonnable. Et que la France avait perdu un peu cette image qu'elle a souvent eue, qu'elle a longtemps eue, qui était l'image d'un pays qui pense qu'il peut s'affranchir des lois de la gravité économique, parce que et des dirigeants politiques qui pensent que on vit dans un monde un peu clos et qu'on peut faire la politique économique qu'on veut. Et ça, quel que soit, quand ils regardent, je peux vous dire que quand vous prenez les fonds d'investissement, tout ce qui est intéressé par la France à l'étranger, private equity,
les fonds d'investissement,
ils se disent mais finalement la France France, c'est instable. Les Français n'ont pas changé. Tous les programmes qu'ils ont en face d'eux sont quand même globalement assez irréalistes, assez démagogues même, on peut le dire. Et donc ça, moi, je crains que ça laisse des séquelles durables, quel que soit le résultat.
Oui, donc Bardella fait du Macron.
Oui, alors oui, mais alors attendez, juste parce que si on reprend les différentes séquences depuis le début de l'année, on a eu à la fois une dégradation de la note française et par ailleurs, on s'est fait épingler par la Commission européenne pour déficit excessif. Donc les investisseurs étrangers, ils ont bien compris qu'on n'était pas dans un modèle économique hyper stable.
Oui, mais enfin, la France reste la France, la signature de la France reste quand même une des meilleures signatures en Europe. La preuve, la dernière émission, ou même la prochaine, je pense, se passera bien. Donc, quand même, et puis Bruno Le Maire, il est là depuis 7 ans. Donc, il y avait un côté très rassurant.
Oui, une stabilité politique.
Une stabilité politique qui, pour les investisseurs étrangers, notamment, était vraiment quelque chose de très
donc
positif.
Donc là, on a une instabilité économique couplée à l'instabilité politique.
4 jours, 5 jours, y compris des grands banquiers américains qui s'apprêtaient à renforcer leur bureau parisien. Là, ils attendent, et à mon avis, on va attendre longtemps.
Beaucoup ont mis leur investissement sur pause.
Ils attendent de voir ce qui va se passer si le gouvernement RN se met en place, ce qui se passe s'il y a de nouvelles dégradations. La bataille budgétaire, la bataille budgétaire 2025.
Dans ce temps perdu, il y a des projets qui sont mis en pause et qui se feront, mais il y a des projets qui, de toute façon, ne se feront pas.
Oui, ne se feront plus.
Un mot sur les retraites, on est raccord, vous avez compris exactement de quoi
alors ça y est Edwige, parce que suite à votre débat en effet sur scène avec Jordan Bardella, c'est clair.
C'est la même chose, enfin oui c'est clair, oui et non, enfin oui.
Donc, ah bah on sait ce qui se passe, à quel âge et quand ça.
Alors, ce qui est très clair, c'est les 60 ans et les 40 annuités pour les carrières longues. Là, on est d'accord. Là où c'est moins clair toujours, c'est on abroge mais on reste à 64 ans tant qu'on n'a pas fait l'audit qui montre qu'on est capable de mettre des économies en face pour faire les 62 ans. C'est là où on retrouve aussi le programme du nouveau Fonds populaire qui est lui aussi pour les 62 ans, mais lui tout de suite.
Oui. Retour progressif aux 62 ans avec 42 ans de cotisation et tout ça sera soumis au résultat de l'audit à l'automne prochain. Moi, j'appelle ça, ça s'appelle gagner du temps. Hein, je suis désolé.
D'une conférence sociale sur les salaires et les conditions de travail. Ils disent... Voilà. On ne veut pas exercer le pouvoir de manière verticale, on veut concerter, on respecte les partenaires sociaux, on veut faire une conférence avec eux pour voir comment on revient à 62 ans.
Pardon, c'est le même qui ce matin dit « je conditionne beaucoup de réformes, de tricotage de cette réforme des retraites au résultat du grand audit » et c'est le même qui vous dit quelques minutes après, comme l'avait dit François Fillon à une époque, « je suis susceptible de devenir Premier ministre d'un État qui est en état quasi faillite ».
Ah mais lui, il le dit, la France
donc,
est en fait...
Une fois que vous avez dit ça, bon ben voilà, le constat est fait, la cause est entendue, qu'est-ce que vous attendez d'un audit qui ne donnera rien de nouveau
Il faut essayer je pense qu'il faut arrêter d'essayer de trouver de la cohérence où il n'y en a pas. Il faut arrêter d'essayer de trouver une sorte d'idéologie ou de théorie économique là où il n'y en a pas. Je me souviens, il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour en 2002, il avait dit « je suis économiquement de droite et socialement de gauche ». Donc c'était la formule choc, c'est resté, mais ça ne veut rien dire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de politique de l'offre ou de la politique de demande, il y a un petit peu de CVAE, petit peu d'impôt de production. Attendez, pour les entreprises, parce qu'il est passé devant les patrons il y a quelques jours et qu'il faut bien les verrouiller pour pas trop leur faire peur, mais en même temps, il faut faire des mesures populaires et on va dire, pour certains, s'ils le souhaitent, populistes, et donc on baisse la TVA. Donc vous voyez bien qu'il saupoudre dans tous les sens, qu'il n'y a pas d'axe, et donc il faut arrêter de penser que d'un jour sur l'autre, on passe d'une politique plutôt à gauche ou plutôt à droite, ça slalome en permanence. Oui. Et c'est ça sur tous les plans, que ce soit l'aspect budgétaire, sur la réforme des retraites, on vient d'en parler, sur l'énergie, on a les deux, on met un peu à droite, un peu sur les baisses de TVA. Enfin, ça n'a absolument, économiquement parlant, aucun sens. Et vous savez quoi? Eux font de la politique. Donc, quand on essaye de faire de l'économie et que les faits sont têtus,
là, on est dans le temps politique.
On se fait des nœuds au cerveau. Donc, moi, faites ce que vous voulez. Moi, j'arrête de me faire
des nœuds. Mais en tout cas, Edwige, ce que votre invité précédemment rappelait, Michaël Zemmour, c'est que si il fallait abroger la réforme des retraites, eh bien, il fallait surtout qu'elle soit abrogée vite parce qu'en fait, elle a déjà commencé et on aurait une année de gens qui vont partir à la retraite avec, du coup, des inégalités pour ces personnes-là, forcément.
Absolument. Et c'est pour ça qu'en face, ils mettent un coût de 20 000 milliards, alors que le Rassemblement National mis un coût de 1,6 milliard. Donc, on voit bien, c'est là où Michaël Zemmour, économiste, disait, vous voyez, c'est pas très très sérieux.
1,6 milliard, c'est des carrières longues.
Uniquement, c'est ça.
Juste pour les carrières longues. Le reste, c'est pas si frais.
Non, c'était dans la suite de ce qu'on disait sur le fait fait que Jordan Bardella est là pour rassurer les milieux d'affaires, les patrons. Il y a eu ces derniers jours quelques noms jetés ici ou là dans quelques journaux, comme La Tribune Dimanche, Le Monde, sur, on va dire, des grandes figures.
Alors, on a entendu Hubert Védrine.
Attendez. Oui. Moi, je les ai tous testés. Aucun, mais aucun n'a confirmé avoir été approché ou avoir eu de contact avec l'entourage de Jordan Bardella. Donc, en fait, avant le premier tour, évidemment, ils n'ont aucun intérêt à le dire. Mais il y a quand même des grands noms qui sont sortis, comme celui d'Henri Proglio, ancien PDG d'EDF.
Henri
de Castres, ancien PDG d'AXA. Yves Perrier, ancien patron d'Amundi, qui est un grand gestionnaire d'actifs. Et tous se planquent ou démentent, ou font démentent, ou en tout cas, leur
Oui, mais c'est le jeu, Mathieu.
Leur entourage,
c'est facile de lâcher des noms.
C'est pas le jeu.
Oui.
C'est le jeu de qui?
Oui, peut-être, mais personne n'a intérêt à vous dire oui, on a été approché.
Mais avant le premier tour, bien évidemment.
Voilà. Glucksmann a lâché le nom de Laurent Berger qui a démenti aujourd'hui. Vous voyez, c'est pareil.
Là, vous voyez, moi, je tourne la planète là quand vous me dites ça. Ces patrons-là, ces grandes figures du capitalisme, n'ont aucun intérêt, évidemment, à dire qu'ils ont été approchés par le Rassemblement National, mais leur entourage nous disant off, mais surtout pas au secours. Donc, si vous voulez, économiquement parlant, le Rassemblement National, enfin le Front National puis le Rassemblement National ont toujours été mauvais. C'est ce qui les a fait perdre en 2017, puis perdre en 2022. Ça n'a pas changé. Ils font de la politique. Leur grand pilier.
Oui, alors le casting est différent aujourd'hui.
Leur grand pilier politique ne sont pas l'économie, sont l'immigration et d'autres sujets, la sécurité, l'ordre, etc. Et en fait, ils n'en ont rien à faire de l'économie. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas faire peur, vous voyez ?
Enfin, on sent quand même qu'ils ont musclé la partie économique de leur programme, mais parce que c'était justement ce qui leur avait fait défaut précédemment.
Ils ont moins de plumes, mais c'est bien pas un point fort.
En 15 jours, ils changent d'avis, on leur dit que c'est pas chiffré, ils essayent de chiffrer, les chiffres sont divisés par deux, on rajoute un peu.
Le fait est que vous mettez l'accent sur un point sérieux, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé l'oiseau rare pour aller à Bercy, pour rassurer, justement, pour incarner ce sérieux.
Ils ne le trouveront pas.
Alors là, Mathieu, la tentation du pouvoir.
Le Rassemblement National ne trouvera pas une coalition au Rassemblement National avec une grande partie de la droite, ça c'est une autre chose. Mais le Rassemblement National ne trouvera pas d'oiseau rare à Bercy.
Juste quand même, c'est sûr que nous on parle beaucoup d'économie et des programmes économiques. Bien évidemment, ils sont tout à fait conscients que la base de leur électorat, ce qui les intéresse, c'est l'immigration, c'est la sécurité, et que sur le reste, c'est pas très important.
Et
pourquoi ça a eu de l'impact au moment des élections présidentielles? Pourquoi en 2017, Marine Le Pen perd quand même des points, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur un débat présidentiel? C'est pas parce que les thèmes sur lesquels elle s'est fait battre, c'est l'économie. C'est parce que, clairement, face à Emmanuel Macron...
La question de la sortie de la zone euro, ça a joué quand même.
Mais elle manque de technique.
Vous croyez que les gens, ils y comprennent beaucoup de choses sur la portée de la zone euro? Non, ce qui lui a coûté cher, c'est ce déficit de compétences. Oui. C'est-à-dire que les gens ont vu un Emmanuel Macron qui leur a paru compétent et une Marine Le Pen qui ne leur a paru compétente.
Et dans une France à 10% de chômage.
Et dans une France à 10% de chômage.
On sortait du quinquennat Hollande, la courbe du chômage tous les mois. Donc, c'était le mot qui revenait le
Donc je pense que c'est surtout ça qui lui a coûté cher, c'est le fait de paraître moins compétente, pas tellement le comparatif des programmes, vous voyez.
Non, mais c'est sûr que de toute façon, l'économie ne fait pas voter, il n'a jamais fait voter, on vote pour une posture, on vote pour une histoire, on vote pas pour un programme économique.
Non, mais du reste,
c'est nécessaire, mais pas suffisant.
Je veux dire, ce qui est presque, on est presque la démonstration, c'est le fait que tout le monde s'envoie des chiffres à la figure, qu'il y a des économistes partout, tout le monde est économiste. On disait ça avec Emmanuel Le Chip, qui est un vrai économiste.
Oui, mais vous avez raison, avec des interprétations complètement différentes sur chaque programme.
Voilà, on brasse les milliards, les millions, pardon, je me suis trompée. Non, en fait, c'est pas 10, c'est 20, c'est pas 12, c'est 17. C'est un côté ubuesque.
Et des économistes qui se divisent.
C'est crédibiliser tout ça.
Et ça ne fera pas vraiment bouger les lignes, in fine, on le verra peut-être, on verra dans ça.
Les lignes politiques.
Deux minutes pour parler d'énergie. Mathieu Pechberti voulait nous dire reculade sur reculade, renoncement sur renoncement, incohérence sur incohérence dans le programme du Rassemblement National sur l'énergie.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'énergie, là maintenant, est vraiment en tête de liste des mesures de Jordan Bardella. On l'a vu ce matin
dans la
conférence de presse. Ça fait parmi des principales urgences. Et d'ailleurs, la première dont il parle. Alors effectivement, il y a quelques jours, il dit qu'il faut davantage aider les entreprises pour qu'elles aient un prix d'électricité plus avantageux, idée qui a été à peu près reprise en tout cas par le gouvernement. Aujourd'hui, ils disent qu'il faut baisser la TVA sur l'énergie, mais on sent bien que là-dessus, ils sont déjà en train de bouger. On passait de 20% de TVA à 5,5. Oui. Et puis ce matin, Jordan Bardella a dit qu'il faut s'aligner sur la moyenne de la zone euro qui est à 11%. Mais ils ne sont pas allés plus loin, si vous voulez.
Quand il dit renouer avec les prix français de l'électricité, qu'est-ce que ça veut dire?
Ah oui, alors après, effectivement, il y a le marché européen de l'énergie, évidemment. Alors, marché européen de l'énergie, pour essayer de ne pas faire trop compliqué, il y a encore un mois, le Rassemblement national a dit qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie. Marine Le Pen a dit encore ce matin sur les réseaux sociaux que c'était faux, qu'elle avait demandé à sortir des règles. Oui. Alors quand vous sortez des règles, vous sortez d'un marché. Ou alors,
comme le Portugal.
S'il faut changer les règles, et donc s'il faut changer les règles, vous changez le marché, vous sortez du marché. Ouais.
Et alors, quoi l'impact, et le gouvernement.
Deux secondes. Le gouvernement a dit, a essayé il y a 2 ans de changer les règles. Hein. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, a essayé de changer les règles. Il n'y est pas arrivé. On était en pleine crise énergétique.
Ouais. Et donc aujourd'hui, enfin, on est sorti de l'arène quand même.
Non, mais ça, c'est les règles françaises. Le gouvernement a dit il y a 2 ans, on sort, on essaie de changer les règles du marché européen et de la libre fixation des prix. Il n'y est pas arrivé. Marine Le Pen dit aujourd'hui, on change les règles. Et Jordan Bardella a redit ce matin, donc, on souhaite avoir une sorte d'exception française, comme l'Espagne et, le Portugal, pardon.
Oui, une dérogation.
Il y a 2 ans, une dérogation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que c'est trop compliqué, mais la France ne peut pas, parce qu'il y a un truc qu'on ne changera jamais, c'est que la France est un carrefour géographique en Europe. Et donc, si vous faites une sorte de d'îlot énergétique au centre de l'Europe, le marché européen n'existe plus.
Non, en plus, il
dit... Et donc, d'ailleurs, Jordan Bardella ce matin a dit, non, mais c'est vrai, alors on n'oublie pas qu'on a des voisins européens, qu'on a des interconnexions avec la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne et même avec les Anglais sous la Manche. Donc à un moment donné, on ne peut pas. Donc petit à petit, ils se rendent compte qu'ils font des promesses, mais qui sont...
Mais il l'a maintenu ce matin. On veut une dérogation rapide. On veut une dérogation rapide de l'Union européenne.
Il va aller à Bruxelles et Bruxelles va lui dire non.
Sans rien. Voilà.
Alors c'est marrant parce qu'il il a fait 30% des suffrages aux élections européennes.
Bah oui, donc,
il aura énormément de députés. Donc à moins que les députés, notamment Rassemblement National, essaient de changer les règles du droit européen. Mais si vous changez les règles du droit européen, vous sortez des traités. Ce que je veux dire par là, c'est que...
Oui, il y a un mur des réalités.
C'est un raisonnement complètement absurde, puisqu'ils ont promis des choses qui sont intenables. Et dernière chose, parce qu'on va rester dans le symbolique pour être presque sur une note humoristique, Marine Le Pen, il y a encore 2 mois, disait, je me souviens, sur le plateau d'Hertel, on va démonter les éoliennes. Bon, bah voilà, Jordan Bardella dit ce matin, non, on ne va pas les démonter. Et on ne va même pas arrêter les énergies renouvelables, on va faire un moratoire. Et donc, par définition, un moratoire est une suspension temporaire.
Donc, il était déjà un petit peu question de moratoire. Le ton s'était déjà un petit peu adouci depuis quelques temps sur les éoliennes.
On était sur un arrêt du développement des énergies renouvelables.
Et là, on pourrait en démonter quelques-unes.
Des nouvelles constructions.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Non, mais vous voyez, est-ce que. Ils se rendent bien compte que sur un sujet aussi sérieux que l'énergie, ben vous pouvez pas faire n'importe quoi.
Oui.
J'ai envie de dire tant mieux.
Oui, absolument tant mieux. Mais pour un parti politique qui se dit depuis des mois, voire des années, prêt à prendre le pouvoir immédiatement, on voit bien qu'il y a une certaine impréparation.
C'est aussi le cas du nouveau Front populaire sur le plan énergétique là aussi.
Oui, absolument.
Ça, on parle pas du nucléaire. On parle carrément pas de nucléaire dans le programme commun. Là.
Ça dépend à qui vous parlez.
Même Marine Tondelier en parle pas. On n'a pas parlé le jour après avoir entendu du programme. Bon, c'est terminé. 18h57. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus ce soir pour cette première partie des experts. Mathieu Pechberti, Emmanuel Lechypre, Thomas Asportas, Edwige Chevrillon. À demain.
Oui, à demain. 2 invités, mais surtout une, Anne-Charlène Benzizar, la constitutionnaliste, parce que moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut avoir une session extraordinaire? Si jamais Emmanuel Macron dit non, qu'est-ce que ça peut se passer? Nomination du Premier ministre, bref, j'ai envie de revoir les basiques
possible,
de la constitution française, parce qu'il faudra bien voter un budget et un projet de loi de finances rectificative. Qui pourra le voter?
C'est vrai qu'on ne se projette pas trop après le 7 pour l'instant, malheureusement.
Mais pour une fois, on va
essayer. Absolument. Merci à tous les quatre. 18h58, on revient dans un instant. Nous,
oui, on se retrouve tout de suite. On est ensemble en direct jusqu'à 20h.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
De quoi est-ce qu'on parle ce soir? Du programme économique du Rassemblement National. Jordan Bardella ce matin qui nous a pas vraiment rassurés sur la manière dont il entendait financer certaines des mesures qu'il a annoncées. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Puis nos experts, on va leur demander leur avis. Ils seront là dans un quart d'heure, évidemment.
Ah oui, alors on va évoquer évidemment d'autres sujets, tous les sujets en lien avec les programmes électoraux qui sont tous maintenant sur la table. Alors, faut-il craindre, par exemple, pour son épargne, puisque l'ERN a confirmé ce matin le retour d'une sorte d'ISF. Et puis, est-ce que nous nous préparons à des relations tendues avec Bruxelles? Ça, c'est une vraie question. Et enfin, la France est-elle désormais le grand malade de l'Union européenne? Réponse dans un instant.
On fait des questions. Alors, trois économistes, un nid d'économistes ce soir pour parler de tout ça. Nathalie Janson pour Neoma Business School, Benjamin Coria pour les économistes atterrés et Marc Toiti pour le cabinet Assez Défi. Il fallait bien 3 économistes.
Quelque chose me dit qu'ils vont pas être d'accord.
Il y a des chances, effectivement.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc Jordan Bardella, 1h20 de conférence de presse ce matin à Paris pour dévoiler son programme au sens large et notamment les mesures économiques. Bonsoir Thomas, qu'est-ce qu'on retient fondamentalement sur le programme éco du Rassemblement National, Thomas?
Il a présenté un programme qui s'articulerait en deux temps. D'abord l'urgence cet été sur la sécurité, l'immigration et sur le pouvoir d'achat avec trois propositions. La baisse de la TVA sur l'énergie, la sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur par décret au 1er juillet. Ensuite, il y a un deuxième temps à l'automne avec des réformes qui présentent comme plus structurelles, notamment les retraites avec un départ à 60 ans pour les moins de 20 ans qui ont cotisé 40 annuités, les carrières longues, et pour les autres, pour tous les autres, un retour progressif à 60 deux ans. Autre réforme, la poursuite de la baisse des impôts de production avec non seulement la disparition de la CVAE comme le promet la majorité, mais aussi la suppression de la C3S. Pour augmenter les salaires, le RN, ça on connaissait la proposition, veut exonérer de cotisations patronales pendant 5 ans jusqu'à 3 SMIC les entreprises qui augmentent les salaires jusqu'à 10%. Et enfin, pour financer l'économie, vous en parlez dans le sommaire, le RN veut créer un fonds souverain qui financerait l'innovation, les TPE-PME et les infrastructures. Et un dernier point enfin sur la méthode, le RN veut mettre en place, là aussi c'est dans le calendrier, dès cet été, trois commissions avant de faire des choix définitifs, une commission d'évaluation des comptes publics qui irait faire le fameux audit de nos finances publiques, des états généraux de la simplification pour demander aux chefs d'entreprise ce qu'ils attendent comme mesures de simplification, et enfin une conférence sociale sur les salaires et les conditions de travail chargée notamment de plancher sur le retour progressif à la retraite à 62 ans.
Voilà donc pour les principales propositions économiques du Rassemblement National. Merci Thomas, on en reparlera tout à l'heure bien sûr avec vous sur BFM Business. Alors, il y a eu beaucoup de reculades ces derniers temps et encore aujourd'hui, Mathieu Pechberti, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Vous vous concentrez sur le secteur de l'énergie, que vous nous dites, c'est reculade sur reculade finalement sur ce sujet.
Oui, alors c'est important parce que le secteur de l'énergie, les mesures liées à l'énergie sont parmi les plus importantes du programme économique de Jordan Bardella. Il les décrit même parmi ses premières mesures en tant que mesure d'urgence. D'abord sur la TVA, il a quand même fait un recul assez net sur le montant de la baisse de la TVA. On était jusqu'ici sur une baisse de TVA de 20% à 5,5%. Puis il est en train de dire désormais depuis ce matin qu'il faut s'aligner sur la moyenne des pays de la zone euro et on est à 11%. Et comme il n'y avait pas eu de chiffres très précis qui avaient été donnés jusqu'ici, aujourd'hui on est à 7 milliards d'euros d'économies sur ces mesures. Alors qu'avant, les estimations étaient autour de 11, 12, certains les chiffraient jusqu'à 17 milliards. Et puis, ça, c'est pour les mesures, on va dire, de pouvoir d'achat directement. Puis, sur la mesure plus structurante qui était liée au marché européen de l'énergie. Alors, on est effectivement aujourd'hui très loin de ce qui était encore dans le programme du Rassemblement National au moment des européennes, qui était de sortir du marché européen de l'énergie, même de changer les règles du marché européen de l'énergie. Ce que disait encore ce matin Marine Le Pen en réagissant à un de nos sujets. Puisque si vous changez les règles du marché européen de l'énergie, de fait vous en sortez. Aujourd'hui, Jordan Bardella précise qu'il demandera à Bruxelles une dérogation pour, on va dire, plafonner les prix français de l'électricité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une mesure qui est absolument impossible à mettre en place, que d'ailleurs le gouvernement, il y a deux ans, avait quand même essayé de négocier à Bruxelles. Bruxelles l'avait dit, il en est hors de question. Et donc, aujourd'hui, Jordan Bardella a fait cette précision sur une mesure dérogatoire dont les spécialistes pensent que, de toute façon, elle ne pourra pas être mise en place.
Merci beaucoup Mathieu Pechberti. Voilà donc pour les mesures énergétiques du Rassemblement National. Et alors, parmi les pistes d'économie proposées aujourd'hui par le RN, il y a la suppression, vous n'avez pas passé inaperçu, d'une niche fiscale dont bénéficient les armateurs. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Depuis 2003, la France applique la taxe au tonnage, une disposition qui permet de taxer forfaitairement la masse totale d'une flotte de navires. Apparu pour la première fois en Grèce en 1957, ce régime fiscal s'est peu à peu imposé en Europe. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos voisins l'ont adopté, 86% de la flotte mondiale l'utilise. Une disposition fiscale optionnelle qui remplace la taxe sur les bénéfices pendant 10 ans, sans possibilité de retour en arrière. En fait, un pari sur l'activité. Cette taxe est très intéressante pour les armateurs lorsque les résultats sont records. En 2022, par exemple, elle a coûté une fortune à l'État, 3,8 milliards d'euros de manque à gagner. À l'inverse, en cas de période de creux ou d'activité atone, c'est moins intéressant pour les armateurs. En moyenne, elle a coûté à l'État 46 millions d'euros par an entre 2010 et 2020. Mais c'est encore trop cher pour le Rassemblement National qui souhaite sa suppression. Selon les calculs du parti, cela pourrait rapporter 1,2 milliard d'euros dans les caisses. Mais d'après les armateurs français, sa suppression conduirait au désastre en cassant la compétitivité de la filière maritime, isolant la France. De quoi aussi, explique-t-on, largement ralentir dans les années qui viennent les investissements dans la décarbonation.
Voilà donc pour le programme économique du Rassemblement National dont on va largement reparler bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. 19h07. Pendant ce temps, Bruxelles est en train de dégainer la grosse armada contre Apple. Elle vient de confirmer que d'après l'Américain, ne respecte pas les règles du fameux DMA européen. Il y a donc entorse à la concurrence. Il y a surtout un risque de très très grosse amende prochainement pour Apple. Alexandra Paget.
40 milliards d'euros, soit 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est le montant maximal qui peut être infligé à Apple. Du jamais vu, la commission lui reproche de ne pas se conformer au DMA. Certes, l'entreprise a ouvert l'iOS à plus d'applications non estampillées par ses soins. Elle permet aussi aux développeurs de ne pas passer uniquement par l'App Store, mais le système est encore si fermé que passer outre les solutions maison se révèle être la croix à la bannière, que ce soit pour les développeurs ou les utilisateurs. Apple, qui réfute toute pratique anticoncurrentielle, peut désormais exercer ses droits à la défense en ayant accès au dossier et répondre aux conclusions préliminaires. Mais si celles-ci sont confirmées, Bruxelles pourrait rendre une décision définitive de non-conformité d'ici à la fin mars 2025. La firme s'est déjà vue infliger en mars dernier une amende de près de 2 milliards d'euros pour des motifs similaires. Le géant californien fait systématiquement appel, mais cette fois la réponse du berger à la bergère est d'une autre nature. Apple a invoqué des difficultés posées par le DMA pour retarder le développement de ces outils d'intelligence artificielle en Europe.
Alexandra Paget, puis on va aller à New York pour terminer. Les banquiers juniors de Wall Street travaillent-ils trop ? Là-bas, la norme, il faut le savoir, c'est 100 heures par semaine, sauf que vous avez le mois dernier deux jeunes salariés de Bank of America qui sont décédés prématurément. Le débat est donc relancé. Reportage sur place d'Antoine Hollard pour BFM Business.
Il y a deux ans, Christine J décroche le job de ses rêves, analyste dans une grande banque à Wall Street. Mais rapidement, l'expérience tourne au cauchemar.
Il n'y avait aucune séparation entre le travail et la vie privée. Je travaillais souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et plusieurs fois par semaine, je passais même toute la nuit au bureau.
Un travail intensif, sous pression permanente, la jeune femme finit par craquer.
Un jour, je me suis évanouie au travail. J'ai été transportée aux urgences. J'étais la troisième de mon équipe à qui ça arrivait. C'était un environnement de travail très toxique.
À Wall Street, les banquiers juniors sont corvéables à merci et parfois les conséquences sont dramatiques. Le mois dernier, ce salarié de Bank of America meurt, foudroyé par une thrombose. Il avait enchaîné les semaines de 120 heures de travail. Sur des groupes de discussion, ses anciens collègues accusent la direction.
Son manager est responsable, il écrase les juniors de travail. Ses supérieurs savaient qu'ils travaillaient trop et ils n'ont rien fait.
Ce décès relance le débat sur les conditions de travail à Wall Street. Certaines banques ont bien pris des mesures. Interdiction de travailler le samedi, semaine plafonnée à 80 heures. Mais ces règles sont rarement appliquées. Karen Ho, professeure à l'Université du Minnesota.
Il y a une culture du surmenage à Wall Street avec l'idée que travailler énormément est un signe d'intelligence, un signe que vous êtes connecté en temps réel avec les marchés, car les marchés ne prennent jamais de pause.
Et la situation ne va pas s'améliorer car ces dernières années, les grandes banques américaines ont réduit leurs effectifs pour faire des économies. De quoi alourdir encore un peu plus la charge de travail de ceux qui restent.
Voilà, reportage Antoine Hollard pour BFM Business du côté de New York, 19h10. Tout ça nous amène où, figurez-vous, sur les marchés. Justement, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui reprend un petit pourcent, hein, 7706 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Justement, puisqu'on parle de Wall Street, là je vois les indices qui sont plutôt non, c'est très épars finalement, il n'y a pas de
problème. Oui, c'est en ordre dispersé, un petit peu comme vendredi. Vous avez un Nasdaq qui plafonne un petit peu suite aux nombreux records qui ont été touchés depuis le début de l'année, quand le Dow Jones rattrape un petit peu son retard, plus 0,7%, le S&P qui est stable, le Nasdaq qui perd 0,7%, le Nasdaq qui a été propulsé pendant des semaines et des semaines par Nvidia, sauf que là, ça fait 3 jours que Nvidia perd plus de 2%. Il y a des prises de bénéfices après un titre qui a été multiplié par 3 depuis le début de l'année, ça où vous rendez compte quand même de la dépendance de cet indice technologique à une seules et mêmes valeurs, au point que Nvidia est passé de la première capitalisation mondiale la semaine dernière à troisième aujourd'hui, donc tout va très vite, avec également un marché qui regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, l'inflation américaine qui sera publiée vendredi, et puis ça y est, jeudi soir, c'est le grand débat entre Joe Biden et Donald Trump.
Mais oui.
On va commencer à voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre en termes de programme, sachant que pour l'instant, les sondages donnent Trump gagnant, donc tout ça met un petit peu d'attentisme sur le marché, et donc un S&P qui est stable. Un Nasdaq qui est pénalisé par Nvidia, quand le Dow Jones, de son côté, prend 0,7%.
Merci beaucoup, Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. Il est 19h12. On revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, avec nos experts. Alors, on va pas mal décrypter, évidemment, le programme économique de Jordan Bardella. Pas beaucoup de précisions, pas beaucoup de chiffrage, évidemment, malheureusement, ce soir, à l'issue de 7h20 de conférence de presse. On posera la question de savoir si les épargnants doivent vraiment s'inquiéter pour leur épargne si l'extrême gauche passe, comme l'extrême droite finalement. Et puis, est-ce que les choses, dans tous les cas, vont se corser avec Bruxelles? On va réclamer des dérogations sur des taxes, etc., etc. Plus les dettes et les déficits, bien sûr. Tout ça jusqu'à 20h. Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, on est reparti, les experts de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, et nos experts qui sont là, ils sont trois, tous économistes. On n'a pas que des économistes ce soir, ça tombe bien, la crise s'y prête. C'est parfait. Nathalie Janson est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
Professeur à Neoma Business School, Benjamin Coria. Bonsoir Benjamin, bienvenue. Bonsoir. Professeur de sciences économiques à Paris 13, membre des économistes atterrés. Et Marc Toiti est avec nous. Marc, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là.
Ravi de vous accueillir, économiste, président du cabinet à ses défis. Donc 1h20 à peu près de conférence de presse ce matin pour Jordan Bardella pour présenter son programme économique. Alors à l'arrivée on dit quoi? Il n'y a pas beaucoup de chiffres, il y a toujours beaucoup de questions, André Malraux.
Oui, alors c'est vrai, on ne sait toujours pas comment vont être financées la baisse de la TVA sur les produits énergétiques ou encore l'abrogation progressive de la réforme des retraites ou encore les hausses de salaires. Alors donc il y a cette question-là, comment est-ce qu'on finance ce programme? Et puis deux, êtes-vous surpris par le virage quand même libéral du Rassemblement National? Parce que enfin, il s'adresse vraiment aux patrons des petites et moyennes entreprises, Marc.
Alors, souvent vous me dites que je donne des mauvaises nouvelles. Moi je trouve qu'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui quand nous, quand même, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'économie, on essaye de faire des efforts pour éviter justement un dérapage des comptes publics. Ça veut dire que ce qu'on essaye de faire depuis des années, parce que bon, n'oublions pas quand même que l'année dernière il n'y avait ni aucun extrême qui était au pouvoir et pourtant le déficit public a explosé. On est l'un des rares pays dans le monde, enfin du moins dans l'Union Européenne, où le déficit public a autant, je dirais, explosé donc l'année dernière. Et pourtant, il n'y avait pas de mesures particulières, je dirais, d'extrême droite ou gauche, entre guillemets. Là, on commence à se dire, et je pense que effectivement, on a bien compris que si jamais, le 8 juillet, il y avait, alors soit il n'y avait pas de majorité, ou s'il y avait un gouvernement qui annonçait une augmentation du déficit public, alors là, effectivement, il y aurait une sanction. Je vous rappelle qu'on a quand même...
On a déjà été sanctionné. Hein.
On a déjà été sanctionné. On a quand même, cette année, dans le meilleur des cas, avant même les élections, hein, à peu près 160 milliards d'euros de déficit public, et ça, c'était avant le mois de mai et juin, c'est-à-dire que depuis, on en parlera tout à l'heure, on a des indicateurs avancés, des directeurs d'achat notamment, ou de l'INSEE, qui a, l'enquête a été menée avant, hein, la plupart des réponses ont été envoyées, selon l'INSEE, le 10 mai. Donc, avant le 10 mai. Donc, c'était pas encore dans les tuyaux, cette dissolution. Et déjà, on avait des signaux de baisse de l'activité, malgré les Jeux Olympiques, etc. Donc, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Également, les chiffres sur les perspectives d'emploi, on avait une hausse du chômage qui était annoncée par les chefs d'entreprise. Mmh. Ça, c'était au mois de mai et juin, avant, encore une fois, la dissolution. Est arrivé, effectivement, ce phénomène-là. Donc, on a déjà une base de, encore une fois, minimum 160 milliards de déficit. Et donc, après... Évidemment. Alors si c'est le front de populaire, je sais pas comment ça s'appelle. Nouveau front populaire. Alors là, évidemment, ça va augmenter de à peu près 100 milliards. Donc bon, voilà, au diable l'avarice. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je m'attendais pas à ça parce que à la base, j'avais chiffré le déficit public supplémentaire du premier programme du Rassemblement National à 60 milliards. Là, on nous dit bon.
Et là
60 milliards, on nous dit que ça sera autour des 10 milliards, 12 milliards. Bon, ouais. Bon, c'est encore une fois. Et donc, il y a des efforts qui sont menés. Moi, je pense qu'il faut de toute façon réduire.
Des mesures d'économie, Marc, il n'y a pas de mesure d'économie.
Non, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils comptent beaucoup sur la lutte contre la fraude, etc.
Alors, c'est ça. Il y a les niches fiscales, il y a les taxes sur les énergéticiens.
Mais c'est vrai que globalement, il faudra faire des économies. Et ça, pour l'instant, on n'a pas, je dirais, de clarté. Mais moi, j'ai envie de voir ce côté un peu positif en disant, pour une fois, dans une élection, on parle d'économie. Ce qui est déjà pas mal, parce que ça fait deux élections présidentielles notamment, où on n'a quasiment pas parlé d'économie, et ce qui a fait justement que Macron, finalement, il n'avait pas de programme économique.
On en parle certes, mais est-ce qu'on en parle avec compétence et connaissance des sujets? Voilà la question. Je n'ai pas Nathalie ou Benjamin qui veut attaquer là-dessus.
Je pense que le programme, en tout cas pour le moment, est suffisamment flou, effectivement, pour... en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas eu de changement radical par rapport à ce qu'il avait déjà préannoncé, puisque depuis le début, il n'accentue pas les dépenses, il dit simplement qu'il va
réduire des impôts. Oui. Et là, il a fait très plaisir, puisqu'il a dit qu'il irait jusqu'à la baisse, il finaliserait la baisse des impôts de production, qui sont souvent un leitmotiv qu'on retrouve du côté des entreprises.
C'est une promesse de Macron, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Et il va même plus loin.
Il va plus loin. Voilà. Donc, effectivement, il continue sur cette lancée avec, en plus, la baisse de la TVA. Mais on sait très bien que ces baisses de taux d'imposition, enfin, la baisse de la TVA, on sait très bien que le résultat est très incertain. Parce que, voilà, c'est le premier cours, je le répète souvent, d'économie qu'on fait, l'incidence de la fiscalité. Et on sait très bien que lorsque on fait ce genre de mesures, on ne sait jamais.
Arrosez tout le monde.
On n'est pas sûr du tout que ça aille en faveur des consommateurs, puisqu'il faudrait que ce soit un marché extrêmement concurrentiel pour que du coup ça retombe sur les consommateurs. Les biens concernés pour le moment ne le sont pas. C'est pas des marchés extrêmement concurrentiels. Donc effectivement la perspective d'avoir un gain au niveau du pouvoir d'achat est limitée. Et par contre on sait qu'il y aura une baisse des recettes. Donc de ce point de vue là, c'est pas très favorable. Après moi ce que j'attends depuis toujours, mais là on l'a toujours pas, c'est que de toute façon comme vous l'avez dit, on n'est pas sur une redéfinition de l'État avec ses tâches et donc les dépenses qui vont avec. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que si vraiment il voulait renverser la table, il serait venu avec une vraie définition, en tout cas une perspective de redéfinir le rôle de l'État. Et c'est pas
non. Alors, en effet, sur la table, pas de réforme de l'État. Non. En revanche, en effet, comme Guillaume le disait, on ratisse large, baisse d'impôts pour les entreprises, mais baisse d'impôts aussi pour les travailleurs, pour les familles. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Est-ce que ça vous semble être les bonnes conditions pour relancer la croissance ?
Écoutez, moi ce qui me frappe, c'est enfin une chose fondamentale qui a frappé un peu tout le monde, c'est le rétropédalage général sur les dépenses annoncées. Alors, vous vous en réjouissez, tant mieux.
Il faut que je donne une bonne nouvelle, vous voyez.
Attendez, si vous voulez bien. On est là pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Bon, donc, il la joue en défense, en disant il n'y a plus qu'un quart d'heure à jouer, et c'est bon. Le problème, c'est que les matchs, il n'est pas commencé. Le match commence le 8 juillet. Bon, donc, il rétropédale sur à peu près tout. Alors que il était élu sur 5 ans de campagne sur la hausse du pouvoir d'achat. Il n'y a plus rien. Donc, des deux choses l'une. Si, il y a la hausse de TVA dont vous avez parlé, la baisse de TVA dont vous avez parlé, sur lequel l'effet plus qu'incertain. La dernière hausse de TVA notoire, c'est celle sur la restauration, et c'est les restaurateurs qui ont mis la différence dans leur poche.
Non mais attendez, donc, baisse d'impôts pour les travailleurs, notamment suppression des impôts moins de 30 ans.
Justement, c'est ça que je veux dire. Ouais. Des deux choses l'une. Parce que la grande question, c'est que il est élu sur le pouvoir d'achat et sur des aspects de sécurité sur lesquels on va revenir. Pour le moment, on regarde l'aspect économique. Bien. Donc, des deux choses l'une. Ou bien il rétropédale jusque dans les faits. Et dans ce cas-là, c'est même pas l'opposition au Front National qui va se manifester à partir du 8, c'est les votants Front National. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est pas possible d'avoir fait la campagne qu'ils ont fait, parce qu'il n'est pas élu depuis la semaine dernière. C'est une progression du FN permanente et spectaculaire et qui s'est accélérée dans la dernière période. Mais dont le cœur est la question du pouvoir d'achat. Donc, des deux choses l'une. Où il répond à cette demande. Et dans ce cas-là, vous pouvez être très satisfait. Il va falloir toucher à la fiscalité. Et, tous les sourires qu'il fait aujourd'hui à l'entreprise, pour parler vite, au patrimoine, il n'est pas question de les toucher, etc. Il va falloir déchanter. D'accord ? Ou bien, mais ça c'est le point central. Ça veut dire que le Front Populaire, on peut ne pas être d'accord, il y a pas de problème là-dessus. Mais il finance ce qu'il dépense et il dit on va faire 14 tranches d'impôts et il dit on va faire un impôt sur le patrimoine. Non, vous êtes pas d'accord avec ça. Oui, mais ne dites pas qu'il ne finance pas. Si, il finance.
Comment ça tombe du ciel ?
Voilà, on tombe sur l'incidence
venez de dire que la fiscalité,
attendez. Vous pouvez.
Non, mais
ce sur quoi je veux insister, c'est le point suivant. On peut ne pas être d'accord avec le Front Populaire, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas dire qu'il ne joue pas carte sur table en disant on va faire 14 tranches d'impôts et on va taxer les hauts patrimoines à partir de 10 millions d'euros et on va les taxer fort.
Oui, mais s'il n'y a pas de rendement de l'impôt, on doit
faire... Attendez. Très vite, Benjamin. Mon point, c'est quoi ? Mon point, c'est que dans le Front National, il n'y a rien. Il n'y a aucun financement de prévu. Donc, moi, je dis, la partie... Elle n'est pas finie le 7 juillet. Elle commence le 8 juillet. Et des deux choses l'une, hein, ou ils financent les dépenses de pouvoir d'achat qui sont attendues, bien, ou ils ne les financent pas. Et à ce moment-là, donc, il va y avoir un gros problème, y compris dans son électorat.
L'argument de Marc, c'est de dire oui, effectivement, c'est peut-être plus documenté du côté du Front Populaire, mais effectivement, ça tombe pas du ciel. Voilà.
Non, mais non, le vrai enjeu de la fiscalité, on le sait bien, mais Benjamin le sait bien, tout le monde le sait. Encore un truc. La dernière fois qu'on avait tenté justement d'augmenter effectivement l'imposition sous François Hollande, il en est revenu en arrière. Même si
parce que
on est revenu.
On précise non, pourquoi, mais... Marc, parce que les fuites de capitaux ont triplé justement déjà, au moment de ces annonces.
Tu vois, c'est le principe.
Mais là,
de base.
Là, tout le monde est déjà parti. Là. Tout le monde est déjà dans les paradis fiscaux.
Très simplement. Déjà, je rappelle la base. Nous sommes sur un poids des prélèvements obligatoires de 48% du PIB selon l'Eurostat en 2022. On n'a pas encore 2023.
On est repassé devant le Danemark, première place du podium.
Monde. Donc, n'oublions pas de dire que notre parce qu'on croit qu'on ne paye pas d'impôts en France. Si, nous sommes numéro 1. Même en France, on n'a jamais payé autant d'impôts.
C'est des prélèvements obligatoires. C'est prélèvements obligatoires.
Ok, avec les prestations, les cotisations.
Moi, je veux bien qu'on ait ce débat-là, hein.
Non, je suis d'accord. Mais attendez. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous augmentez encore une fois ces impôts, qu'est-ce qui va se passer? On le sait très bien. Historiquement, c'est vérifié. On va casser l'activité économique, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est déjà, attendez, laissez-moi finir, est déjà très mauvaise. Donc, on va effectivement casser cette activité. Et à ce moment-là, on va donc réduire l'assiette fiscale. Donc, on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Et donc, évidemment, on aura moins de recettes fiscales. Le dernier qui a essayé, c'est François Hollande. Il s'est cassé les dents.
Et ça n'a pas marché.
Il est revenu en arrière. Sinon, évidemment, ça aurait été catastrophique. Donc, voilà, l'enjeu est très simple. On ne peut pas dire que c'est financé parce qu'il n'y aura pas ces recettes fiscales escomptées.
Nathalie Janson, quand Jordan Bardella dit j'attends d'être au pouvoir à Matignon pour faire un audit des comptes et affiner mon programme, est-ce qu'il gagne du temps ou est-ce qu'il a raison de dire ça?
De toute façon, et c'est déjà, enfin, je veux dire, vous savez très bien que c'est une arlésienne, la revue des dépenses. Bon, voilà, peut-être que lui, il va vraiment la faire, mais ça fait même Bruno Le Maire a dit qu'il devait en faire une. Donc, c'est clair, mais. À nouveau, je pense que ce qui manque comme objectif, c'est de dire, voilà, je vais redéfinir la taille, l'action de l'État. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir une action de
l'État. Réforme du périmètre de l'État, Nathalie, et donc, ça c'est la résienne.
Et donc là...
Même Macron s'y est pas attaqué en 2017.
Mais on voit qu'on est dans une incertitude comme dans une autre. C'est-à-dire que lui, effectivement, a plus une politique sur au niveau de l'offre de l'entreprise, avec comme effet escompté d'avoir une incitation à produire et donc récupérer comme là, on va faire un gâteau plus gros pour du coup avoir plus de rentrées d'impôts. Donc, mais à nouveau, il y a une incertitude forte, donc on ne sait pas si ça marchera.
Écoutez, vous êtes...
Et du côté de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que en fait, là, ils vous sortent les 14 tranches d'impôts, mais comme de toute façon, il y aura des effets incitatifs, on ne sait pas si ça produira les revenus escomptés qui couvriront les dépenses. Donc voilà, on est incertitude contre incertitude en termes de couverture des dépenses ou des non-recettes.
Alors Benjamin, pour conclure.
Bon, on va pas avoir maintenant la discussion sur le Front Populaire, puisque vous l'avez déjà eu dans l'heure d'avant, si j'ai bien compris. Bon.
Oui.
Ce qui est extrêmement important, c'est que dans un cas, il y a des annonces de financement extrêmement claires et on peut discuter sur la question de savoir jusqu'où on peut y échapper ou pas. Dans l'autre cas, il y a absolument rien.
Non, d'accord,
c'est ça qui est très inquiétant. Alors, quand vous dites « Ah oui, mais il y a un choc d'incitation, machin, etc. » Macron, il a fait ça pendant 7 ans. Le résultat, c'est 3 000 milliards de dettes, un déficit...
On va mettre déjà de la dette avant, quand même, Benjamin.
On
est déjà de la dette
oui,
avant Macron.
Bien sûr, bien entendu, c'est commencé avant. Mais je veux dire, Bardella, c'est un petit garçon à côté du choc de l'offre qu'a fait Macron. Il faut être sérieux. Bon, cette politique, elle a échoué. C'est là qu'elle nous a mise. Alors, maintenant, lui, il va jouer au petit soldat avec sa politique de l'offre. Enfin, je veux dire, ça fait rigoler tout le monde. C'est ce que vous avez dit. Non,
mais j'ai dit
ce que
vous avez dit. J'ai pas dit majeur, jamais dit majeur.
Bon, donc on est ramené à ce que je dis, à savoir, il y a des dépenses annoncées qui ne sont pas financées.
Marc, c'est là où je suis moins optimiste que tout à l'heure, entre guillemets, c'est que moi, j'aimerais qu'on aille plus loin. qu'on fasse effectivement un grand soir fiscal, un grand soir de la dépense publique.
On n'en parle pas le grand soir, Marc.
Ça, c'est alors, complètement. C'est une des promesses du RN. Hein.
Ah ouais, encore, oui, enfin,
ils ont promis des grandes assises sur le sujet.
Je pense que c'est important de dire les choses, mais c'est vrai qu'on est, il faut le dire, hein, on est un petit peu dans la démagogie au sens large.
Petit joueur.
Comme c'est les élections, on n'ose pas effectivement dire vraiment ce qu'on va faire, mais moi je pense qu'il faut le dire. Regardez ce qu'a fait Macron, justement, le déni de réalité permanent, ça n'a pas fonctionné. Et il a été élu justement sans parler vraiment d'économie, sans parler de ce qu'il allait faire. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Bon, même si quand même il y a eu des effets positifs globalement, notamment sur l'investissement des entreprises. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut annoncer la couleur aujourd'hui. Et je pense que, alors après, peut-être effectivement le Front Populaire qui lui annonce la couleur, on sait très bien que voilà, on va augmenter les impôts.
Non, mais ça, donc on sait très bien, on sait rien du tout.
On est simplement pas d'accord. Incroyable, bon, historique, sans parler des autres mesures évidemment, mais on a aujourd'hui besoin, encore une fois, d'assainir. Si on n'assainit pas, c'est clair qu'après on aura des vraies sanctions sur la France, malheureusement.
Bon, un mot, 10 secondes vraiment, parce qu'on passe la pause. L'histoire de l'audit, là, c'est une manière de gagner du temps. Il a tous les chiffres dont il a besoin, Monsieur Bardella.
Non, je pense pas que. Non, je pense qu'il il sait pas. Donc,
comment ça, il sait pas?
Bah, je pense qu'il est audité.
Les agences de notation ont des chiffres et lui, il aurait pas les chiffres.
Mais enfin,
je ne sais pas s'il est allé à ce point-là, ou l'extrême gauche qui arrive. Tout le monde va demander un audit.
L'histoire de l'audit, c'est vieux comme le monde. Je veux dire, chaque nouveau gouvernement qui arrive et qui veut nier le programme qu'il va faire et qu'il a annoncé commence par dire ah bah oui mais on a trouvé les caisses vides, bon donc on le connaît par cœur. C'est pour ça,
c'est l'alibi,
c'est pour ça que je dis que le plus probable, je répète, dans mes hypothèses, le plus probable, c'est un mécontentement, y compris de la base du RN, parce que toutes les promesses en termes de pouvoir d'achat, il va rien faire. Je prends date.
Enfin, il ne faut pas laisser entendre que l'extrême gauche ferait mieux. Hein. Mais bon,
on prendra le temps.
Oui, absolument, justement.
Elle ferait bien pire, je pense.
Allez, on y revient très rapidement.
Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, les experts du soir sont avec nous, Nathalie Janson, Marc Toiti, Benjamin Coria et puis bien sûr avec Guillaume Paul. Donc on continue à parler du programme économique du RN. Donc avec cette question désormais, les Français doivent-ils s'inquiéter pour leur épargne? Parce que le fait est qu'apparemment, ils se posent beaucoup de questions.
On a raconté notamment sur BFM Business comment les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine, vous savez, reçoivent beaucoup d'appels depuis maintenant 15 jours. Et notamment depuis la présentation des programmes du côté du Front Populaire, du côté du Rassemblement National, qui nous a donc annoncé aujourd'hui, mais on le savait plus ou moins, un retour d'une sorte d'ISF, voilà, d'expiration de l'IFI, taxation des revenus sur les valeurs mobilières, donc actions et assurance-vie, avec l'idée toujours que ceux qui ont des actions, ceux qui ont de l'assurance-vie, ne sont que des rentiers, voilà.
Ça vous plaît,
Benjamin? C'est un amalgame qu'on fait toujours un petit peu, quand même. Benjamin, comment vous...
Non, mais écoutez, je veux dire... Il faut raison garder, hein, je veux dire. Le raisonnable, c'est pas de taxer les hauts patrimoines. Le raisonnable, c'est de les avoir laissés enfler comme ils ont enflé. Le raisonnable, c'est pas de faire en sorte que il y ait un retour d'une partie de la valeur ajoutée du côté du travail. Ce qui était déraisonnable, c'était quoi? Moi, quand j'étais petit, hein, à l'école, on m'expliquait que la forme principale d'inflation, c'était l'inflation tirée par les salaires. On a eu quoi, là, pendant 2 ans? On a eu une inflation tirée par les profits. On a eu des super profits dans l'agroalimentaire et dans les supermarchés.
Non, mais c'était une inflation importée.
Non, c'est pas importé.
Dans
le pétrole, dans le transport maritime,
oui, mais elle aurait pas eu
dans
lieu
la pharmacie,
s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Bon, voilà.
Non, en tout cas, importé ou pas importé, c'est de l'inflation tirée par les profits. Bon, c'est raisonnable, ça? C'est raisonnable? Bon, on n'a jamais vu ça, pratiquement, dans l'histoire. Bien, on fait une taxe, soi-disant, sur les super-profits, qui est supposée rapporter 12 milliards d'euros, elle rapporte 350 millions.
Oui, merci. Vous avez fait le coup ce matin de la surtaxe sur les rentes.
On se fout de la gueule du monde.
Non, mais on est d'accord, bon. Ça, c'est un échec total.
Donc, alors, je réponds à votre question.
Oui.
Je réponds à votre question. Un retour de bâton, c'est-à-dire des formes de taxation sur les hauts patrimoines et sur les hauts revenus, sont-ils nécessaires? Oui, absolument. De plus, non seulement pour des raisons de justice minimum, mais aussi compte tenu de ce qui est devant nous, c'est-à-dire la transition écologique. Si on ne va pas chercher de l'argent là où il est, vous croyez que c'est Total qui va la faire, la transition écologique? Il faut arrêter.
Ah bah, ils vont grandement y contribuer. C'est quand même un acteur incontournable de la transition énergétique dans les prochaines années.
Non, Total, Total, mais pour le moment,
on va avoir
mais pour le moment, Total, c'était une des rares entreprises pétrolières qui, en dépit
dépit des demandes du GIEC oui. de ne pas ouvrir de nouveaux champs pétroliers,
oui, le fait
en permanence.
Non, mais on est
pourtant,
d'accord.
Et pourtant,
non,
on ne fera pas sans eux.
Non, voilà. Mais
on d'accord avec vous.
Mais on ne fera que en Benjamin. Les forçant à faire. Si on attend que eux le fassent,
non, mais
ils ne le
font
pas.
Il faut des mesures coercitives et on est d'accord sur le fait que faire confiance aux pétroliers pour nous sortir du pétrole, ça n'est pas la panacée. Ceci dit, oui, mais ceci dit, attention, parce que sur l'ISF, attention à l'impôt qui forcerait les Français et les Françaises à vendre ce qui n'est pas liquide et ce qui est indexé sur la valeur de marché. Parce que quand on crée par exemple une start-up qui devient une licorne et que c'est valorisé justement sur une valeur de marché, bah quoi, on va être obligé de la vendre ?
Non, moi, Marc Coty, je dis qu'il y a deux choses. Déjà sur les super profits, encore une fois, allez dire ça aux petites PME, aux petites TPE.
Non, mais je ne le dis pas aux petites PME, je le dis aux grands patrons.
Ouais, mais on ne fait pas sur 40 entreprises du CAC 40 qui payent leurs profits, leurs impôts sur les profits qui sont réalisés à l'étranger. Ils payent déjà effectivement ces impôts sur les profits. Dites ça aux PME aujourd'hui qui souffrent, qui n'arrivent pas à joindre
mais
les deux.
Je ne le dis pas aux PME viser les PME.
Vous êtes en train de dire
n'inventez pas des trucs.
Surprofits partout. Non, il n'y a pas eu des surprofits partout. Vous le savez très bien, l'inflation est une inflation effectivement par les coûts qui a été mondiale, comme l'a bien dit Audrey. Après, évidemment, qu'il y a eu des dérapages parce que justement on a voulu faire les boucliers en tout genre et qu'on n'a pas voulu justement laisser entre guillemets la vraie confrontation entre l'offre et la demande. Oui, bon, c'est une erreur de Macron. C'est une erreur de Macron.
Vous applaudissez.
C'est une erreur, tout à fait. Après, le vrai enjeu, moi je vais vous dire très honnêtement, on ne peut pas tourner autour du pot.
Ouais.
Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, dans des banques et ailleurs, etc. Franchement, ça pourrait être pour faire peur. J'ai jamais été aussi inquiet qu'aujourd'hui. Sur l'avenir.
Parce que vous étiez déjà très
De l'économie française. Et pourquoi? Parce que ça fait 15 jours, je ne vous dis pas le nombre de coups de fil que j'ai tous les jours.
Alors qu'est-ce que vous entendez?
De chefs d'entreprise, encore une fois, de chefs d'entreprise
alors, en France,
franco-français, qui ont créé leur boîte, qui arrivent à s'en sortir plus ou moins, qui se disent, bon ben, moi je vais vendre ma boîte, ça ne sert à rien, je vais me faire... Des personnes qui effectivement me disent, alors est-ce que je peux passer mon argent en Suisse, au Luxembourg, au machin? Ils n'ont pas des sommes énormes. Il y a cette inquiétude qui est en train de s'installer. Il faut être conscient.
Oui, mais sauf que Marc, attendez, mais ça fait une semaine que le Rassemblement National s'adresse aux entreprises en les rassurant.
Non, mais soyons honnêtes. Je vous parle pour tous les programmes qui arrivent après le 8 juillet. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que si vous voulez, c'est parce qu'on en a parlé du Rassemblement National, de Front Populaire, mais même effectivement, les autres partis aujourd'hui, leur programme n'est pas financé. Et moi, c'est ça ma crainte. Ça fait longtemps que je l'annonce. C'est que justement, tôt ou tard, eh ben, comme on est sur le numéro 1 des impôts, il n'y a jamais autant d'impôts en France, il faut bien taxer quelque
c'est
part.
C'est pas des impôts
donc, okay.
C'est des prélèvements obligatoires. Ça fait faire des économies. Ça fait faire des économies, les prélèvements obligatoires.
D'accord. Sauf qu'attendez,
la sécurité sociale française.
Je termine. Okay.
Laissez-moi terminer
mon raisonnement.
Attendez, je vais laisser la parole dans un instant.
Donc à partir de là, quand vous avez effectivement ce poids des prélèvements obligatoires qui est énorme, donc sur quoi on va taxer davantage?
Oui.
Sur effectivement l'épargne. Donc le film il se termine comme ça. C'est-à-dire moi je peux vous le dire, quelle que soit l'issue après le 8 juillet, malheureusement, sauf miracle évidemment, bon, c'est pas trop d'où ça viendrait, eh bien malheureusement, il faut prévenir les Français.
L'assurance vie.
L'imposition, on verra le détail, l'imposition sur l'épargne, sur le patrimoine, pas sans parler d'ISF, parce que les très riches sont déjà plus là, ils sont déjà partis. On pourra pas les avoir ceux-là. Non, ils sont déjà partis.
Ils font de l'optimisation fiscale.
Ils sont de l'optimisation. D'ailleurs, on le sait bien, c'est ça le drame de la
société française. Les uns qui sont revenus quand même,
allez. Il y a tellement d'impôts, on a un impôt tellement complexe que ceux qui peuvent se payer les moyens, donc justement d'un fiscaliste, ils payent moins d'impôts.
Non, mais il y en a. Oui, absolument. Mais il y en a qui sont revenus comme disait Guillaume,
mais ça reste la classe moyenne et ce sont eux qui vont malheureusement payer.
Enfin,
c'est
ça qui aujourd'hui. On a aussi un nombre de foyers millionnaires en France qui a largement augmenté, et notamment aux réussites entrepreneuriales de ces 10 dernières années, Nathalie.
Oui, de toute façon, c'est un changement qui a été notable au cours de ces dernières décennies. C'est qu'en fait, en effet, on a un rôle accentué du financement par le marché financier, donc qui permet effectivement aux start-up, enfin aux jeunes entreprises de se financer autrement, puisqu'avant, on n'avait pas grand-chose en France pour financer les jeunes entreprises. Et donc, forcément, cette catégorie existe de façon récente, parce qu'avant, le marché, il n'y avait pas ce type de financement disponible. Donc, ce n'est lié qu'à la conséquence du développement du financement. Donc, forcément, après, savoir s'il faut... effectivement, c'est toujours facile de vendre l'idée qu'on va taxer des rentiers, des riches. Bon, je ne pense pas qu'effectivement, ceux qui ont réussi de façon entrepreneuriale... ce soit on leur tombe dessus après un coursi, c'est parce qu'ils ont une idée et qu'ils ont fait des choses que les autres n'ont pas fait, donc je trouve que introduire de la morale là-dedans c'est un peu trop facile de taper dessus. Maintenant je pense qu'il faut surtout essayer justement de les garder à la maison. Et c'est en fait c'est le plus grand drame qui pourrait arriver, ouais. C'est de effectivement de faire
Benjamin en sorte va vous répondre que le ruissellement n'a pas opéré.
Mais le ruissellement il n'a pas opéré.
Deux choses. Bon, d'abord tout à fait tranquillement. Ah. J'aimerais bien, puisqu'on est entre gens sérieux, qu'on ne confonde pas prélèvement obligatoire
oui,
et impôt.
Bien sûr.
Non, évidemment. Oui, mais ce que vous avez fait sans arrêt.
Oui, bien. Pourquoi c'est pas une confusion, c'est une réalité.
Non. Alors si vous permettez, pourquoi? Parce que les prélèvements obligatoires, vous m'écoutez bien là. Oui. En France, ils nous font faire des économies.
D'accord. Oui, sur
d'accord. Laissez-moi finir.
Il y en a marre. Il faut pas s'énerver comme ça.
Benjamin,
on vous écoute.
C'est moi qui m'énerve.
Non. Vous avez la parole. Allez-y.
Alors, donc, non, mais sur la sémantique, parce qu'en effet, c'est important. Donc, ça nous fait faire des économies.
Alors, pourquoi c'est important? Parce que la sécurité sociale, ouais. Hein, où on a des prélèvements obligatoires qui sont relativement élevés, fait que on dépense 10,5% du PIB pour les soins de santé en France, contre 19% aux États-Unis où on est beaucoup plus mal soigné.
Oui, c'est vrai.
Donc, les prélèvements obligatoires, ça nous fait faire des économies.
Avec un système largement déficitaire. Mais bon, parenthèse refermée.
Pas si déficitaire que ça. En tout cas, très très loin de ce que serait un système non basé sur des prélèvements obligatoires. Bon. C'est indiscutable.
Ok, ça, on continue.
Non, mais c'est pas, oui, c'est pas
ça,
discutable.
Je pense
vous. Non, mais attendez, c'est vous génial. Permettez. Bon, bravo. Deuxièmement, notre système des retraites,
oui.
il fait que, oui, c'est coûteux notre système des retraites, parce que nous sommes un des pays en Europe qui prélève le plus pour assurer la meilleure retraite. On peut changer, c'est un choix de société.
C'est
pas Monsieur Moiti qui va décider.
La démocratie voilà. Nous invite. Bon. C'est la démocratie okay. Qui nous
non,
incite.
Non, c'est pas vous qui allez décider.
C'est la démographie qui va nous inciter à changer, Benjamin. C'est la démographie.
Oui, non, mais ça, c'est une discussion qui a commencé. Au bout de laquelle on n'est jamais allé, bien.
Ah bah là, on a l'extrême gauche et l'extrême droite qui veulent revenir dessus.
Oui, bien sûr. Parce que personne n'a voulu de cette réforme des retraites. 80% des Français étaient contre. Elle n'a pas été votée une seule fois. Bon. Et c'est la raison pour laquelle sommes où nous sommes aujourd'hui. Oui, donc ne défendez pas des trucs indéfendables.
Bon, attendez,
vous me défendez des trucs qui n'ont jamais été votés.
Ah non, mais attendez, on est bien d'accord que le manque de dialogue démocratique
explique la situation actuelle. Il y a une discussion
à avoir.
Ayons-la.
Eh ben,
Mais c'est bien pour ça que ce débat existe, Benjamin. Ne considérons pas que ce qui a été fait, c'est table de la loi.
Ah, mais
c'est
pas du tout.
Quoi.
Mais attendez, on est les premiers sur ce plateau à critiquer tous les sports, ce qui doit être critiqué et remis en question.
Bon, après, juste un tout dernier mot.
Très vite, alors.
Comment dire? Il n'est pas question de s'en prendre à l'épargne des petits épargnants. Je ne sais pas ce que vous allez inventer. Qu'il y ait, une indécision, et plus que ça, des marchés par rapport à ce qui va arriver, moi, je trouve ça tout à fait normal. Je ne suis pas du tout surpris.
Les petits épargnants s'inquiètent en ce moment, Marc, ou pas?
Les petits épargnants qui ont 10 000 euros et qui ont 20 000 euros, ils sont inquiets.
Il suffit de regarder les grandes chaînes pour comprendre pourquoi. Hein, parce que, je veux dire, on brandit de tous les côtés que...
Non, et là, c'est Marc qui vous le dit. Il dit, j'ai encore 10 000, 20 000 euros de patrimoine.
Mais je n'ai pas besoin de Marc. J'ai commencé par dire, je comprends très bien que les marchés s'inquiètent. Bon, mais dans les mesures qui sont prises, c'est pas du tout la petite épargne qui est visée.
Alors, on a bien
compris. Prendre les enfants du bon Dieu pour des
cadeaux. Bon, en tout cas, il y a un attentisme qui se met en place de la part des investisseurs étrangers, français et des épargnants.
Il y a quelques minutes qu'on voulait vous poser, c'est la France. Alors, c'est un terme un peu générique, hein, c'est une expression un peu valise. Est-ce que la France est désormais le grand malade de l'Europe? Est-ce que ce qui peut se passer en France est susceptible de perturber, de poser un électrochoc sur la zone euro, à l'instar de ce qu'on a connu finalement il y a de ça 10 ans.
En fait, c'est simple, on est en train de vivre une crise grecque, mais puissance 10, parce que nous sommes la France.
La France n'est pas au bord de la faillite. Hein.
Non, pas encore, mais attendez, mais quand vous prenez l'actif net de la puissance publique, c'est-à-dire avec le hors-bilan, on est à 6500 euros de dette publique. Vous enlevez l'actif, donc de mesuré par l'INSEE sur le compte de patrimoine, on est à 4500 euros. Voilà. milliards.
Non, mais les chiffres étaient truqués en Grèce, Marc. Et puis en plus de ça, par ailleurs, on a une dette qui continue de diminuer, d'être soutenable.
Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, effectivement, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas que l'économie, c'est le social et le sociétal.
Non, mais je vous entends.
Si vous me permettez, je trouve que Emmanuel Macron a fait une erreur historique. C'est-à-dire de mettre comme ça, effectivement, de déchirer de France sans préparation. Okay, en plus, on avait les Jeux Olympiques, on aurait pu peut-être attendre la rentrée, le débat sur le budget, effectivement, certainement, il y aurait une motion de censure. Et là, effectivement, on aurait pu dissoudre l'Assemblée. Là, aujourd'hui, ce n'est pas préparé. Regardez ce qu'il vient de dire Macron à l'instant. Là, il vient de dire que les programmes des extrêmes mènent à la guerre civile. Mais comment un président peut dire ça, comme disait je sais pas qui ? Un président ne devrait pas dire ça, si vous voulez. Et... encore une fois, moi c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui.
Est-ce qu'on risque de porter un coup fatal à la zone euro, à l'image de ce qu'on a connu?
S'il y a une crise aujourd'hui en France, ça ne sera pas comme en Grèce. Je rappelle que nous avons 3100 milliards d'euros de dettes, sans compter le hors-bilan. Et donc évidemment, s'il y a une crise demain financière, une crise de la dette publique, inévitablement la zone euro sera impactée. Et n'oublions pas non plus tous nos voisins, tous nos partenaires de la zone euro, pas que les Allemands, mais les Italiens, les Portugais,
juste, je t'empère un tout petit peu,
qui ont fait des efforts, budgétaires. Si demain on leur dit, mais nous les Français, on va continuer d'augmenter notre déficit public et notre dette publique, et vous faites ce que vous voulez, vous croyez que ça va?
Attendez, le Trésor français qui avait besoin de lever de l'argent a levé plus d'argent que ce qui était prévu. C'est classique. Attendez, ça n'aurait pas été le cas pour la Grèce. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une signature France qui continue d'être achetée.
Pour le moment, la dette de la France est achetée pour diverses raisons, enfin, qui tiennent effectivement à sa structure, au fait qu'en France, à la différence de la Grèce, nous n'avons pas de problème de rentrée fiscale, puisque c'était effectivement le double problème de la Grèce, c'était que les comptes n'étaient pas tout à fait clairs, mais qu'en plus, de toute façon, ils ne rentraient pas l'impôt. Donc, quand on est dans des économies comme ça, où l'évasion fiscale est importante, effectivement, on a un coup sévère sur la capacité du pays à pouvoir rembourser. Et ça a été le déclencheur de la crise grecque. Bon, la France, on n'en est pas là. Par contre, ça peut créer des tensions, comme il a été dit précédemment, puisqu'effectivement, un pays qui voudrait ne pas continuer à respecter des règles que d'autres s'imposent ou se sont imposées, et donc qui essayent de montrer qu'ils suivent ces règles, pourrait... sans aucun doute créer des tensions. Donc voilà, donc on n'est pas effectivement dans un sérieux, mais on pourrait avoir des tensions sérieuses au sein des pays européens, parce que
exprimé en ce sens,
il a exprimé ses inquiétudes.
La question, est-ce que les marchés pourraient, au-delà du 7 juillet, venir tester la solidité des dettes françaises?
Après, on pourrait voir
ricochet allemand, italien.
Il pourrait peut-être arbitrer ces derniers jours, il semblerait qu'effectivement il y a eu des arbitrages en faveur de l'Espagne.
Le spread, l'écart de taux 10 ans entre la France et l'Allemagne a dépassé les 0,80 points de base, c'est-à-dire c'est un plus haut depuis 2012.
Benjamin,
les marchés soient un peu secoués compte tenu de l'énormité de ce qui a été fait politiquement et de la période qu'on traverse. Quoi d'étonnant. Bon, ceci dit, pour de multiples raisons, il est à peu près clair que, en tout cas, tant qu'on est dans ces limites-là de spread, voire un peu au-delà, il n'y a pas de gros problème. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a traversé la crise Lehman Brothers, qui est quand même autre chose que le déficit français, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, moi je le dis d'autant plus tranquillement que j'y croyais pas. On a vu quoi ? On a vu la BCE. Qui est complètement sorti de son mandat et de ses rails, et qui s'est mis à racheter de la dette publique jusqu'aux oreilles, en même temps qu'elle a racheté des titres, on ne sait pas trop comment, des entreprises.
Ça fait partie de son mandat.
C'était interdit.
C'était en 2015.
Nous, économistes atterrés. On a écrit un bouquin qui s'appelle L'Europe maltraitée après la modification du traité européen, pour dire on peut pas
interdire à la Banque centrale d'acheter des dettes et de jouer un rôle d'amortisseur.
Mais aujourd'hui,
parce qu'on pensait qu'il le ferait pas, mais ils l'ont fait.
Benjamin Cordella, aujourd'hui à nouveau, si la France faisait défaut, la BCE rachète
si on arrivait à une situation dans laquelle l'Europe serait menacée, comme vous prétendez, la BCE agira. Oui. Et je pense...
Donc on peut continuer à claquer, la BCE fera...
Si on arrivait à... Bon, il faut pas tout mélanger. D'accord.
Alors, Nathalie, elle agira avant, puisqu'on a adopté depuis 2022 une clause qui fait que ça s'appelle la protection contre l'effet de transmission, si on résume le terme. Oui. Et de toute façon, elle irait augmenter la part de la dette française qu'elle pourrait acheter par rapport à la quote-part au capital. Donc de toute façon, effectivement, avant qu'on en arrive à une situation très grave, il va se passer un petit peu.
Donc ça veut dire, pour répondre à la question de Guillaume, qu'il n'y aura pas d'effet de contagion.
Alors, sauf pour terminer quand même sur les taux d'intérêt, parce que même si effectivement elle agit, on l'a vu sur l'Italie par exemple, mais les taux à 10 ans sont montés à plus de 4%, 5% même, pendant un moment. Donc ce qui veut dire
Maintenant, c'est terminé ce genre de...
Mais même si on monte en France à 4% de taux de 10 ans, encore une fois, ça veut dire que les taux des crédits vont augmenter. Là, l'immobilier qui est déjà évidemment à la ramasse, ça ne va pas s'arranger. Comprenez, donc, même si, encore une fois, on peut espérer que ça se passera bien, que les autres pays vont nous laisser faire, il y aura quand même des problèmes économiques en France.
Maintenant. Allez, 2 minutes 45 avant la fin, l'extra time, comme tous les soirs, vos avis, 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur, évidemment, c'est la règle. Marc, tiens, puisque vous avez la parole, vous voulez commencer? Allez, 30 secondes.
Si vous voulez, oui,
allez,
bien sûr. Parti. En fait, non, simplement, c'était juste pour dire que, encore une fois, cette dissolution arrive à un mauvais moment, parce qu'on avait déjà des indicateurs des directeurs d'achat, de l'INSEE, donc sur le mois de mai et juin, donc avant que la dissolution, parce que les enquêtes ont été menées avant, qui montraient que la situation de la France est en train de s'effondrer. Donc, indicateur des directeurs d'achat, c'est le deuxième mois consécutif que tous les pays dans le monde sont en croissance. Donc au-dessus de la barre des 50, sauf la France.
Ils étaient repartis à la hausse en France.
Hein. Oui, pendant juste un mois, le mois d'avril. Mais mai-juin, on est repassé sous la barre des 50, et ça, c'était avant les effets de la dissolution. Donc ça ne va pas arranger. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le chômage derrière, qui est également en train d'augmenter.
Le pays est déjà à l'arrêt. Malheureusement. Coup de gueule de Marc ce soir. Nathalie, 30 secondes.
Eh bien, coup de cœur, voilà, pour changer quand même.
Merci.
Alors, pour la candidate en Isère, de la 8e circonscription, je crois. Aurore Gallès, j'espère que je ne m'oublie pas son nom, qui en fait est une candidate qui est donc qui n'a pas de parti, mais qui favorise, en fait, qui veut absolument insister sur le Bitcoin. Donc elle est pro-Bitcoin et donc elle veut effectivement faire promouvoir l'utilisation du Bitcoin. J'ai trouvé ça plutôt sympathique puisque c'est la seule en France à proposer ce genre, à avoir ce genre de proposition. Et c'est un effet de démarcation puisque aux États-Unis, il faut savoir que c'est un argument de campagne entre Biden et Trump, donc c'est très drôle qu'effectivement aux États-Unis on en parle beaucoup et qu'en France ce soit absent.
Est-ce que ça va marcher en France, nous, ça suivre bon. Benjamin Coria, pour clore le bal.
Moi c'est un coup de cœur aussi, je me suis volontairement totalement décalé. C'est la mairie de Barcelone qui a décidé de lutter sérieusement contre le surtourisme. Bon, alors en fait derrière cette notion il y a Airbnb et il y a le fait que tout le centre historique magnifique de Barcelone a été acheté, voué à la spéculation par des gens autour du réseau Airbnb. Alors il y a des mesures très dures qui sont annoncées. Les licences ne seront pas renouvelées, ça veut dire que sur 5 ans ça devrait être fini. Alors ça va pas s'appliquer à 100%, tout le monde le sait, mais en tout cas l'annonce d'une telle mesure, c'est encourageant.
Et ben voilà pour le coup de cœur ce soir, de les coups de gueule de nos experts sur BFM Business. Merci à tous les trois d'être venus, on a bien commencé la semaine avec vous. Fort sympathique, Nathalie.
Vive la République, vive la France,
n'oubliez pas. Néoma Business School, et votez bien dimanche. Marc Toiti, économiste, président du cabinet AC Défi. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13. Merci à tous, à très vite, avec grand plaisir sur BFM Business. C'est fini.
Ah oui, c'est terminé pour ce débat très animé, qui est à retrouver, je précise. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis bien sûr, on se retrouve pour un autre débat, probablement aussi très animé, demain soir.
Ça sera bien demain soir aussi, je vous garantis, dans un instant. Oui, Benjamin, oui.
c'est d'entendre tous les turiféraires de Macron pendant 7 ans aujourd'hui expliquer qu'il est en dessous de tout, que, etc. Moi j'aimerais bien que vous alliez chercher dans vos archives, oui, hein, voir les positions des uns et des autres sur les différentes réformes Macron.
Parce que malgré tout,
moi j'ai quand même le sentiment que je ne me suis pas fait avoir.
Ah bah c'est le temps politique, ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez?
Classe à Tech&Co.
Tech&Co, François Sorel dans un instant, demain.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.